en place, Christine. Hein. Bah quoi?
Bah, ah, je m'entends.
Bah oui.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez Radio Éphémère, nous sommes le samedi 19 octobre 2013. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Janet Dead, et à 17h, Éphémère cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le film d'horreur de zombies, 70s, que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Tu vois, sans essai de voix et tout, quand on arrive à une voix pas mal. Hein.
T'as vu, hein, elle était pas aussi sensible.
Quel son de merde!
Ouais, mais moi, tu vois, j'ai même pas besoin de régler les trucs et tout, ça marche direct et tout, quoi. C'est automatique du sport, quoi. Et Thomas qui est en train de s'installer parce qu'il est un petit peu en retard.
Radio FMR présente. Magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique. Le supplément week-end. Avec dans cet épisode du sport ultimatum Morgan Dashkrieg.
Nightmare on Wax, Know My Name, extrait de l'album Mind Elevation, pour ouvrir ce supplément week-end numéro 366. C'est une émission bissextile.
C'est ça, on a cru que le générique allait pas terminer. Hein. T'as battu un record, là.
Voilà, et quand je suis pas là, évidemment, du sport a été aux manettes et a soigneusement arrosé avec l'émetteur, mais ouais, l'enregistrement a été bizarre.
Tu as triché.
Oui.
Tu as triché.
Oui.
On est témoins.
Avoue-le.
Ah oui, oui, je le reconnais.
Mutinerie.
Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end. Bonjour Ultimatum.
Bonjour Dasrich, voilà, Xavier, je sais pas.
Bonjour du sport, bonjour Morgan.
Bonjour.
Hola.
Et bonjour à notre invité que l'on reçoit, Rodolphe Village, bonjour.
Bonjour.
Ça faisait un bail que l'on se chauffait. Voilà, il suffit que je revienne du temple de l'ultra-capitalisme, il suffit que je revienne du palais Broignard de Paris pour que le samedi suivant... Tu sois là.
Ça commence mal.
Ah, oh.
Nous avons déjà une question sur Twitter pour savoir si Rodolphe est un zombie.
Non,
je pensais à Rob Zombie, tu vois, à passer un disque et tout, et puis je me suis dit non, le jeu de mots était poussif.
Mais j'ai pas compris le rapport avec Koh-Lanta là. Parce que tu parlais de Brognard avant, quoi.
Ah, c'est... ah, tu l'as fait avant moi.
tu viens de plomber la chronique de Thomas.
Si je vous suis bien, vous parlez des zombies du palais Brognard, c'est ça?
Oui, voilà, oui, non, ça. Un peu si on veut.
Il faut suivre.
Non, c'était,
voilà,
des, bon, c'était voilà, des geeks, des gens qui avaient regard hagard.
Allez, bref, c'est pas grave. Qui...
Prends la torche.
Les brèves, rapidement. Non, il n'y en a pas.
Bah, c'était très très
voilà,
bref.
C'était plus simple. C'était très bref, bien sûr. On va parler aujourd'hui. Bien.
Ça y est, Thomas est perdu. Ça y est, tu es très perplexe.
Non, j'imagine, je me mets dans la peau de notre invité, il se dit c'est quoi ce bordel. Donc,
voilà. Moi je me mets dans la peau des auditeurs.
Non, je connais un peu d'Astrich dans ce...
D'accord.
Ok, alors c'est bon.
Ah, et tu es quand même venu. Tu es pire que lui alors.
J'ai hésité. Ouais.
Voilà, donc on va parler bien évidemment de ce zombie et de Utopie, pardon, de cinéma Utopia. Puisque donc les cinémas Utopia font leur 5e nuit fantastique. Mmh. Ce sera le jeudi 30
Non. C'est le 31.
Oui. 30... Non, mais 31. Soir d'Halloween, c'est 31.
Je me trompe de date.
D'habitude.
Oui, 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 tout à fait.
Donc, et je propose que ce soit Rodolphe qui nous parle de sa soirée.
Voilà, alors, c'est long fait.
Rodolphe, donc il y aura une soirée à l'Utopia Tournefeuille.
C'est donc le jeudi 31 octobre, voilà. J'insiste bien pour le coup. Et donc c'est la 5e édition, dépêchez-vous d'aller chercher des places parce qu'en général, ça part très vite. Depuis 3 ans, là, c'est devenu assez couru comme nuit. Il y a DJ No Breakfast qui animera avec ses platines diaboliques toute la nuit dans le hall de Tournefeuille. Puis le hall de Tournefeuille se prête particulièrement bien à une nuit fantastique avec les têtes de cerf accrochées au mur, les boiseries qui craquent, tout ça, c'est super.
Vous allez refaire la déco pour cet événement ou pas?
Ah, chaque année on fait une nouvelle déco et... Là on a commencé le brainstorming pour ça, là, pour la nuit.
Et puis en plus, c'est vrai que l'entrée monumentale de l'Utopia Toulouse, qui est un ancien théâtre... Hein,
c'est à Tournefeuille. Hein.
Ah, c'est à Tournefeuille.
Non, mais on l'a déjà dit, Xavier.
Non, mais il est jetlagué.
Coupez-lui le micro, là, c'est pas possible.
Je vais m'auto-couper le micro.
Mais par contre, vous pouvez aller chercher des places à Utopia Toulouse.
Super.
Ne l'embrouille pas.
Ouais, ok.
Super. J'irai en voiture, ce sera plus rapide pour éviscérer les zombies plutôt qu'en vélo, voilà. C'est plus chiant.
Bon, on commence par les trucs qui font mal, les questions techniques, les questions pécuniaires. Combien ça coûte alors?
Combien ça coûte?
On sera arrivé en capitale, quoi, zone interdite. Alors, combien ça coûte?
À te dire combien ça coûte la place de cinéma pour aller là
pour
ou
la soirée
pour...
La place ou la soirée?
Bah, la soirée.
Alors, la place c'est 25 euros.
Ok.
Donc, voilà. 25 euros.
C'est ça ta question?
Oui.
D'accord.
Pour 25 euros, en gros, il y a 5 films, l'animation du DJ, un buffet, croissant le matin, donc c'est vraiment pas cher.
Non.
Voilà.
C'est dans votre gamme de prix général?
Non, c'est moins cher. Non, là franchement, on fait ça quasiment à perte. Hein.
Ah ouais?
C'est vraiment pour le fun.
Et vous attendez combien de personnes?
Bah, 168, et si les places partent très vite comme l'an dernier, on ouvrira peut-être une deuxième salle pour consoler ceux qui sont arrivés trop tard. Mais il n'y aura pas tous les films, parce qu'on ne peut pas faire sur deux salles les mêmes films.
Vous avez fait combien d'éditions déjà?
C'est la 5e.
Tu l'as dit tout à l'heure.
Mais je suis comme d'Ascrit.
Merci de ce soutien.
Je croyais avoir besoin de café, mais...
Ah merde, j'ai oublié d'en faire.
Voilà, et il y a un warm-up demain, c'est le Zombie Day à non, Toulouse avec Radio Éphémère. Donc ça commence à partir de 11h à la médiathèque José Cabanis, puisqu'il suffit de s'y rendre pour se faire maquiller. À 14h, il y a un Zombie Walk. Et à 18h, il y a un Zombie Show avec des stands d'animation. C'est au Bikini, là, l'entrée est payante, 10€, 12€, avec Punish Yourself, Rufus Bellefleur et Zool FX. Et il y avait une excellente interview hier de Punish Yourself dans le 5 à 7 sur Éphémère. Punish Yourself, je veux pas cafter, mais c'est des copons bizarroïdes qui ont fait prépa à Fermat. Ils avaient un magazine à l'époque qui s'appelait Le Petit Nihiliste Non Illustré. Est-ce uniquement à base de dessins.
Le public qui vient à ces soirées, on vient déguiser.
C'est mieux.
C'est mieux.
C'est nettement mieux. L'an dernier, il y avait quoi? Il y avait à peu près un peu moins de la moitié des gens qui étaient déguisés, donc ça suffisait à donner l'ambiance. Il y a toute l'équipe du bistrot qui se déguise, mais vraiment là, eux, avec une maquilleuse et tout,
Là, cool.
Ça déchire. Et pas plus le décor, tout ça, donc ça fait.
Vous avez des surprises aussi dans l'animation derrière les sièges des spectateurs? Est-ce qu'il y a des fantômes comme les.
Non, je sais pas, est-ce que le professeur Thibault passe comme
on n'est pas passé directement de la 2D à la 4D. On s'est dit que ça ferait un step un peu trop grand là pour le coup.
D'accord.
Donc non.
Ok.
Par contre, oui, on avait passé récemment un film qui s'appelle Panique à Florida Beach, qui était hyper drôle, que je vous conseille là, sur ces thèmes là. Et voilà.
Utopia, c'est quand même un nom, c'est une licence, c'est une holding qui détient plusieurs cinémas, des fois sous d'autres noms d'ailleurs. Et c'est vrai que depuis le temps que...
Qu'est-ce qu'il raconte?
De quoi?
Une holding? C'est une holding, ils ont aussi les cinémas ABC.
Oui, au moins.
C'est multinational alors.
J'en connais qui m'ont hurlé.
Non, mais l'ABC, c'est les concurrents.
Non, c'est pas les concurrents. Non, non.
Ah non, non, justement. Non, non.
On va dire des confrères.
Non, les concurrents, c'est Gaumont UGC.
Ouais, mais c'est pas le même secteur. Regarde, vous battez pas pour proposer des cinémas d'art et d'essai. Non, vous les répartissez un peu. Vous avez des bonnes relations avec les autres cinémas. Dites-nous tout.
Bah, nous, on est assez peace and love, mais bon, bizarrement, on nous attaque beaucoup.
C'est le succès, ça.
Ça doit être le succès, ouais, je suppose. Sans doute la jalousie, je ne sais pas.
Xavier, tu peux baisser le son derrière, on s'entend pas parler, merci.
Faut tout faire ici.
Mais oui, on a tenté des politiques de collaboration avec l'ABC, ça s'était plutôt bien passé, puis bon... Récemment, on va dire que c'est un peu plus compliqué, mais je n'aimerais pas trop.
D'accord.
Je trouve pas ça très utile d'en parler, mais bon. Ça arrive quoi. Il y a des crispations des fois autour de certains films, c'est logique.
Mais disons que sur Toulouse, il y a quand même de la place pour cohabiter l'Utopia à l'ABC.
Nous, notre politique, ça a toujours été que les films à ARC sortent de préférence dans les salles ARC. Donc on s'arrange toujours pour que ça sorte soit chez nous, soit à l'ABC. Notre priorité c'était que ça sorte dans des salles comme ça plutôt que dans les multiplex. Voilà.
Mais ça vous arrive souvent d'avoir un peu les boules quand par exemple sort dans les gros réseaux Gaumont, tout ça, Pathé, des films qui en principe devraient être plutôt programmés chez vous?
Oui, en même temps, c'est le jeu, j'aurais envie de dire. Mais effectivement, les multiplex de centre-ville, depuis 4 ans,
ouais,
à peu près,
globalement,
ont de plus en plus tendance à marcher sur nos plates-bandes.
Ouais, parce que bon...
Parce que les blockbusters ne marchent plus autant, donc ils ont augmenté le nombre de salles. Ils se rendent compte qu'avec la VO et les films ARC, on faisait quand même des entrées, donc voilà, c'est maximum.
Ok. Ouais. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler plus cinéma pur dans ce cas-là? Je sais pas, on va peut-être lancer le générique cinéma. Hein.
Si tu veux, mais sinon j'avais une question pour rebondir dessus, mais on la posera
après. Parce que bon, ici dans cette émission, ça fait quand même des années et des années qu'on défend les films en VO et tout, ce qui n'était pas le cas justement quoi, gros trucs. C'était vous et l'ABC quoi qui proposiez uniquement les films en VO, alors que là maintenant c'est tout à fait courant d'avoir dans les grands réseaux les films soit en version française soit en version originale. Bon, c'est pas un mal, on va dire, hein. Enfin bon, là ils vous ont un petit peu pris quelque part de marché.
Alors après on a toujours eu pour idée, dans l'idée de ce qu'on se faisait de la RSC, c'était aussi de faire marcher ces films là sur la durée. Donc nous, ça nous a jamais dérangé de reprendre le film 4 ou 5 semaines après la sortie nationale, par exemple.
Le public vient quand même.
Et le public vient quand même, mais pour ça, il faut le prévenir déjà. D'où l'importance de notre gazette qui est d'une programmation 5 semaines à l'avance. Alors c'est un peu plus compliqué à gérer parce que bon, prévoir 5 semaines à l'avance, faut vraiment anticiper le potentiel des films pour pas se planter sur combien on passe par jour. Et quel film on choisit. Donc c'est là où c'est un jeu permanent, quoi, en fait. Hein. Mmh.
De toute façon, ouais. Le fait que les cinémas multiplex passent des films d'art et d'essai, mais qui ont quand même, ils sont pas fous, ils vont passer aussi de l'art et d'essai qui a un public, par exemple les films de Kechiche, les Cohen.
Oui, mais
voilà.
C'est justement le problème. Ils nous prennent les films sur lesquels les salles d'art et d'essai font habituellement se rattrapent dans l'année, quoi.
Ouais, sauf que vous les diffusez, par exemple les films de Michael Moore. J'ai le souvenir que vous avez passé, mais un temps, mais interminable, quoi.
Voilà.
C'était...
Alors, est-ce que tu serais en train de dire qu'il y aurait un certain biais
non,
de programmation?
Non, c'est pas ça. C'est que
c'est moi qui sors ce genre de saloperie.
Mais non, mais c'est pas une saloperie en plus. C'est que justement, les gens qui l'ont raté, comme on disait tout à l'heure, par exemple au Gaumont ou en VO et tout, ils savent que ça va être diffusé chez vous après.
C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les distributeurs d'avoir les films chez nous. C'est parce qu'on leur dit, voilà, nous on va s'engager sur telle durée, on va même le garder plus longtemps si nécessaire. Et du coup, les distributeurs ne filent pas leurs copies qu'au multiplex. C'est aussi là le travail qu'on a fait depuis des années, quoi. Joyeuse funérailles, c'est un film qu'on avait repris en 7-8e semaine, on l'a gardé un an. Et on l'a repassé encore récemment, on faisait encore des salles pleines. Il y a des phénomènes comme ça qu'on sait travailler aussi et qu'on a appris à mettre en valeur. Voilà,
Et après, c'est vous qui décidez. Si par exemple, 2 ans après, vous voulez remettre à l'affiche un film, vous devez demander des droits ou vous faites ce que vous voulez? Vous avez un catalogue et vous en servez?
Tout dépend si un distributeur a encore les droits.
C'était quand même la particularité quand l'Utopia est arrivé à Toulouse. C'était la première fois qu'on avait un cinéma d'art et essai, purement art et essai et ouvert en continu, avec 3 salles et une programmation qui justement pouvait programmer plusieurs films à la fois. En général, on avait une salle qui ne diffusait qu'un film ad nauseum.
La plus importante nouveauté, c'était ce qu'on appelle la multiprogrammation. C'était surtout ça, en fait, ce qui nous permettait d'avoir plus de films sur les 3 salles qu'on a dans le centre.
Au contraire de l'ABC, par exemple, qui a une progression qui est un peu plus classique, on va dire.
Mais toi, tu veux revenir à la baston, toi.
Ils font pas les mêmes choix. Eux ils programment plus d'une semaine sur l'autre, et nous, on a tendance à programmer plus sur une durée de 5 semaines. Donc ça s'explique aussi par ça, je pense. Hein. Parce que forcément, pour faire des grilles en multiprogrammation, il faut anticiper un peu et c'est très très compliqué. Quoi.
Ouais, j'imagine. Parce que quand on lit le programme, quoi, justement,
c'est un casse-tête.
Utopia,
toutes les 5 semaines, c'est un gros casse-tête.
Les gars qui sont programmateurs, ça doit leur faire pas mal de boulot. Quoi,
comme c'est toi qui es responsable en fait des sites web, est-ce que justement le web, ça permet un petit peu de prendre des libertés par rapport aux gazettes, d'envisager d'avoir une programmation un peu moins sur le long terme?
Je suis ravi que tu abordes cette question.
T'as dit un truc sensé, c'est bien.
Non, parce que
je vais retourner.
Ça va me permettre de parler d'autres. Ça va me permettre de parler d'autres choses, en fait. En ce moment, depuis le mois de mai, il se trouve que Allociné a passé un cap. Auparavant, Allociné rémunérait des gens pour rentrer les horaires des salles de cinéma. Et ils mettaient sur leur site leurs horaires, les horaires de nos salles, sans nous demander notre avis.
Oui.
Bon, ok, soit jusque-là on avait laissé faire parce qu'on n'avait pas trop le choix, on n'allait pas entamer de procédure contre ça. Au mois de mai, ils ont passé un cap parce que depuis quelque temps, ils avaient mis en place un système, une interface graphique dans les parties administration des salles pour que les salles rentrent elles-mêmes leurs horaires. Et donc éviter de payer des gens pour le faire. Oui. Et ils sont arrivés à un chiffre, je pense, bascule de nombre de salles qui faisaient ça. Et ce qui fait qu'ils ont arrêté de payer des gens pour rentrer les horaires.
C'est étonnant qu'il ait pas fait avant, d'ailleurs.
Et donc, ce qui nous a permis de ne plus être sur Allociné depuis le mois de mai. Voilà, donc je tenais quand même à préciser ça. Quand tu parlais de la politique web, c'est pour ça que je parlais de ça, parce que de même que pour le papier, Tout notre travail a été de mettre en valeur les films qu'on propose en n'étant pas dépendant de la communication nationale qui met en valeur des films qui ne vont pas forcément nous aller. Et donc c'est un peu pour donner notre timing, un peu. Si on reprend des films en 7e semaine, il faut que les gens puissent voir qu'il y a ce film et ne se fie pas simplement à la une Télérama de la semaine. Donc c'est important qu'on ait un média qui mettent en valeur les films qu'on propose.
Je n'ai pas polémiqué sur Télérama, il y est allé tout seul.
Oui, c'était un exemple comme ça. Mais bon. Et donc, pour le site internet, on voulait avoir la même stratégie. Et d'où l'importance de ne pas être sur Allociné, qui fait payer très cher les publicités et les campagnes de promotion des films sur son site. Et donc, qui rend difficile le travail des petits distributeurs en particulier, donc des films de la diversité qu'on défend nous. Ces films-là sont peu exposés sur ce site-là, donc si tous les gens vont que sur ce site, c'est dramatique pour la diversité du cinéma. Donc ça nous intéressait beaucoup de ne pas être sur Allociné pour pouvoir... Alors évidemment, c'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Allociné, donc oui. Ça nous coupe d'un public, mais je profite du micro que vous m'offrez pour préciser ça à vos auditeurs et qu'ainsi ils aillent plus sur ce site que je ne qualifierai pas.
Rien que ça, et toc.
D'accord. On rappelle, donc c'est Rodolphe Village, notre invité d'aujourd'hui, responsable des cinémas. Tu es responsable des cinémas Utopia, Toulouse et Tournefeuille.
Non, je suis irresponsable, moi.
Il n'est pas responsable. Il n'est surtout pas responsable, ce type. Oh là.
C'est quoi ton intitulé, au fait?
Je sais pas, c'est polyvalent.
Tu es employé polyvalent.
Factotum.
Non, mais je fais. Je travaille sur plusieurs choses, donc c'est un peu...
Couteau suisse des cinémas.
Couteau suisse, ça me va bien, ouais, c'est pas mal.
Donc, Rodolphe Village, couteau suisse des cinémas, Utopia et Toulouse et Tournefeuille. Ouais. Daskritch voulait passer le jingle cinéma tout à l'heure, il va y arriver.
Oui,
je te laisse
oui.
Le créneau pour le faire.
J'ai juste perdu une clé USB, mais bon, c'est pas grave.
Donc, tu ne peux plus le passer.
Ah, si. Le jingle cinéma qu'il faut.
Gordon Chan, Jean-Yves Fat, Stéphane.
Je me sens à l'écart quand vous faites ça.
Bah oui, mais c'est quand même quelque chose qui était important. C'est le cinéma Utopia, justement, fait amener le film Hong Kong, hongkongais. Dans les années 90-95, il n'y avait que les ciné-clubs. Et là, tout d'un coup, vous passez un film qui est archi-commercial quand même là-bas. Et vous l'importez en France.
C'est pas, en fait, c'est pas. Faut bien savoir
enfin,
que nous.
C'est pas vous, c'est le distributeur.
Voilà,
hein, donc,
on n'est pas distributeur. Nous, on travaille au rythme de ce qu'arrivent à trouver comme fil les distributeurs. Après,
mais quand
il nous arrive de discuter avec des distributeurs pour leur dire vous devriez prendre tel film. C'est relativement rare, mais ça arrive aussi. Mais avant tout, et il y a eu une mode Hong Kong et asiatique dans les années effectivement 90-2000 qui fait qu'on a proposé ces films-là parce qu'il se trouve qu'on les a découverts en même temps et qu'on a adoré, quoi. Voilà.
Vous avez adoré.
Tu pensais à quoi en fait?
Et maintenant,
oui, plein de films.
Tu parles du passé. Maintenant, c'est quoi la mode aujourd'hui au cinéma?
C'est que tout le monde aille voir les mêmes films. La mode, elle est déprimante en ce moment. parce que les films asiatiques, notamment, ne marchent plus du tout, quoi. C'est assez dommage, quoi. À part quelques exceptions, évidemment, le Miyazaki, des trucs comme ça, quoi.
Et vous faites comment pour
c'est très difficile de faire marcher un film coréen, par exemple. Mmh. Alors qu'il y a 10 ans, on est arrivé à faire marcher des films coréens qu'on mettait en couverture de la Gazette. Maintenant, c'est devenu plus dur.
Est-ce que finalement, maintenant, le film d'art et essai actuellement, c'est pas un peu les films avec Steven Seagal, les directs vidéo?
Non, mais par contre, tout le monde va voir le Woody Allen, qui est très bien, hein, cela dit. Hein. Mais il y a d'autres films.
Qui, du coup, malheureusement, est distribué chez Alain Robert et les autres. Quoi.
Ah, bah, il est distribué dans, toute, dans voilà. La plupart des salles, sauf à Utopia à Toulouse, hein, vous aurez remarqué.
Tant qu'on en parle, qu'est-ce qui pourrait te décider à passer du JCVD ou du Steven Seagal à part l'absorption d'alcool?
Du JCVD, c'était...
C'est du Jean-Claude Van Damme.
Ah oui, c'est ça, oui.
T'es pas aware.
C'est pas aware. Oui, alors, tu... Non, jamais ou... une fois, complètement bourré, peut-être
Non. Si je joue dans un bon film, on passera du JCVD.
Ah, bon, ben,
c'est JCVD.
Jusqu'à
c'est...
présent, je... enfin, moi, vous en connaissiez, je sais pas.
Il y a le film JCVD de Mabrouk El Meshri qui avait donc.
Ils l'ont programmé.
Vous l'avez programmé?
On l'a programmé celui-là?
Oui, il me semble, ouais.
Ah oui, peut-être, oui, oui, c'est possible. On peut faire un film.
Ils l'ont programmé.
Le couteau suisse a failli.
Attention, et moi je travaille pas à la programmation, hein. je suis parce que ça, le cinéma m'intéresse comme tous ceux qui travaillent à Utopia. Mais
est-ce que donc on voit clairement tes orientations cinéma pour la programmation.
Clairement, bravo.
On a évité la cata là.
ma question c'est de savoir justement puisqu'il est plus ou moins hors de question de passer certains films qui sont pas bons ou qui sont trop commerciaux.
Ce qu'on programme, il arrive qu'on programme des films que tout le monde n'aime pas. Mais par contre, quand il y a quelqu'un dans les équipes des Utopias qui ont aimé un film, ils vont le défendre, on va le passer. Même si, mettons, les deux tiers des autres qui détestent le film.
Ah bon, vous allez le passer quand même ?
On va le passer quand même. C'est pour ça qu'on a besoin de la multiprogrammation aussi, pour avoir cette diversité.
C'est pour ça que vous faites super gaffe à qui vous en faites entrer dans l'équipe aussi.
ça s'appelle du recrutement, tout le monde.
Il y a quand même eu des films israéliens qui ont été déprogrammés suite aux événements qui se passaient dans les territoires occupés.
Tu vas pas ressortir cette histoire du frigo, là.
Ah non, j'ai pire. Mais si tu veux pas en parler... Non, mais là,
c'était un buzz qu'on a voulu faire et qui a très bien marché d'ailleurs.
Hein. Ah, ça, il faut le reconnaître, ça avait été très bon. Hein.
Non, parce que la presse est ce qu'elle est, hein, et donc c'est ça. Ouais. Voilà,
exactement. Ouais. On le reconnaît.
Non, parce que franchement, c'était surtout un film pas bon et qu'on voulait pas passer.
D'une pierre deux coups.
Celle-là, elle est pas mal.
Non, mais... Et on en a profité pour envoyer un message politique. Voilà, c'est tout. Hein. Ça n'a rien de. Mais bon,
à l'époque de cette histoire-là, quoi, vous a vraiment, on voulait vous faire passer, la presse et tout ça, pour des gauchistes, des pro-palestiniens, anti-sionistes, la totale, quoi.
Gauchistes,
ça vous dérange pas.
Défenseurs de la cause palestinienne, ça nous dérange pas du tout. Ça, il se trouve que c'est ce qu'on est, oui.
Boum.
Mais donc politiquement vous êtes
il se sent mal.
Non pas du tout politiquement, donc vous êtes plus du côté
des opprimés en général,
Gaza,
du côté des opprimés en général, oui, et il se trouve que bon voilà, le peuple palestinien souffre de... on va pas parler du conflit israélo-palestinien.
Non, ça n'a aucun intérêt. Ça fait très bon scénario de film, mais pas au-delà, quoi.
Mais bon, par exemple, il y a un très beau film en ce moment qu'on passe, qu'il faudrait que vous alliez voir, qui s'appelle Omar, qui est vraiment un super film en ce moment. Mm. Qu'on passe à Utopia Toulouse. Plutôt que d'aller voir Woody Allen, allez voir Omar. Mm. Voilà.
Quand on voit...
Non, mais... T'as quelque chose contre Woody Allen?
Mais non, mais parce que vous allez quand même
mais
aller
il
le voir,
dit,
Woody
il
Allen.
Mais il l'a pas, il l'a pas.
Je l'ai déjà vu.
Voilà, déjà.
Il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est on voit la progression actuellement du cinéma. Heureusement qu'il y a eu Canal+ pour sauver certain cinéma français, mais maintenant, quand on voit la plupart des films français qui sortent, c'est que du téléfilm pour Canal. Honnêtement.
Ouais, t'es un peu sévère quand même. Il y a quand même des bons films. Il y a La Vie domestique en ce moment qui est plutôt bien. Il y a certains films français qui sont bien.
Non, il y a des grosses comédies pour TF1 aussi, hein. C'est pas pareil.
Ah oui, c'est vrai.
Après, oui, effectivement, il y a des mauvais films français, mais il y en a toujours eu, hein, j'aurais envie de dire.
Alors, c'était pour faire la transition vers ton domaine favori.
Il y a 9 mois ferme, par exemple, en ce moment, qui est très bien. Il y a quand même.
Ah bon ?
Oui.
Bah, c'est une comédie.
Du Dupontel, quoi.
Oui, c'est du Dupontel, quand même, merde.
Et il y a Sandrine Kiberlin dedans.
Voilà, par exemple.
Entre autres.
Est-ce que la créativité, finalement, actuellement, elle est plus vraiment dans les longs métrages, mais on la retrouve plus dans les séries télé ou les films crowdfundés qu'on va voir sur Vimeo?
Les films crowdfundés, les courts métrages, oui. Les longs métrages, cite-moi. Voilà. Par contre, dans les séries télé, effectivement, il y a des choses extraordinaires. Breaking Bad, c'est une merveille, quoi. Ça, c'est voilà. Bon, mais ça, on peut pas lutter contre ça. C'est une autre forme de durée de narration qui est très intéressante. Est-ce que ça va déboucher plus tard sur une évolution de l'art cinématographique? Peut-être, ça on verra. C'est vraiment très récent ce phénomène des séries. Et qui plus est...
Ouais, pour quelques personnes.
des séries.
C'est vrai que tu peux pas nier qu'il y a un boom en qualité de la. Même s'il y a toujours eu des bonnes séries.
Combien de séries
là, ça explose. Là, c'est vraiment à une échelle grande.
Si on regarde, il y en a combien vraiment de qualité cinématographique. Il y a The Wire, il y a Breaking Bad, Les Sopranos.
Game of Thrones.
Game of Thrones, effectivement.
The Wire, c'est plus dans la qualité d'écriture.
House of Cards.
Il y a eu
House of Cards. Oui, voilà. Bon, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi.
Oz, Homicide. Enfin.
Oui, mais ça, c'est des séries qui
la liste peut
90,
être très très longue.
Une dizaine, allez, on va dire une dizaine de séries.
Dexter. Non, je déconne.
Non.
Non, ça, d'un autre côté, il y a aussi une idée d'évolution de la distribution que tu as amenée, auquel il y a un site que tu as créé qui s'appelle Vidéo en Poche, ouais. Donc vidéoenpoche.info, sur lequel il y a un signe Peace and Love. Ah non, pardon, c'est une prise USB.
C'est un mélange en fait.
Donc explique-nous justement quel est le principe.
Alors le principe, c'était basique, c'est vous venez à la caisse du cinéma avec votre clé USB. Et parmi le catalogue qu'on a sur le site, bah vous pouvez choisir les films qui vous intéressent et qu'on vous copie dessus. La particularité, enfin les particularités, c'est le prix, c'est 5€ par film. Et c'est sans DRM, sans protection numérique, dans un format ouvert. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Quoi.
Donc format ouvert, ça veut dire si jamais j'ai une box d'un opérateur ADSL ou une télé qui a une clé USB, théoriquement, je peux le lire direct.
La Freebox, pour pas faire de pub, lit les fichiers vidéo en poche, par exemple. Ouais.
Et donc, on peut partager le truc après.
Oui. Oui, mais de toute manière, les DVD, tout le monde les partage. Enfin, je veux dire, ça change strictement rien. C'est juste dire aux spectateurs... Voilà, on vous fait confiance dans la relation qu'on a avec vous. On sait que vous allez le partager avec vos proches. Ok, c'est bien. Après, à chacun de voir s'il va le balancer sur le net à des millions de personnes.
De toute manière, c'est un coût pour vous, ça, ou pas ? Ce dispositif.
Bien sûr, c'est un coût.
C'est un coût COUT. Hein.
Oui, j'avais
j'ai vu venir, j'ai cru que c'était avec un P à la fin. Mais...
Il y a eu un coût d'abord d'investissement. C'était quand même dans les 15 000 euros d'investissement. Pour faire la solution logicielle qui permet de mettre en œuvre la chose.
À ce point.
Et pour rédiger les contrats. Parce qu'il faut signer des contrats avec les ayants droit.
D'accord.
Et donc il fallait un avocat, et les avocats ça coûte cher aussi.
Du coup, vous avez. Enfin, c'est pas à perte là, je suppose.
Si, pour l'instant c'est à perte.
Pour l'instant, mais vous avez prévu à peu près pour quand
Nous, c'était surtout un moyen de. Dans un contexte où la Adopi se mettait en place, ouais. Parce que ça remonte à 2010 hein, quand même, la mise en place de Vidéo en Poche. C'était un moyen de dire à notre public nous on est contre cette loi. On avait fait un communiqué d'ailleurs d'opposition à la loi Adopi, mais ça c'était pas suffisant. Il fallait qu'on propose ce qu'on pourrait appeler un compromis social, et c'était l'idée de Vidéo en Poche. En fait, c'était réduire le coût pour qu'il soit acceptable financièrement pour les gens pour l'usage qu'ils ont des films, et en particulier des films à réessayer, c'est-à-dire le voir une fois ou deux, et puis le passer à ses proches. Donc ça, on va pas payer 20€ un film à réessayer pour ça. Hein. Enfin, il y a très peu de gens qui sont prêts à le faire. Donc c'était dommageable à la fois pour ces films. Et...
On a dit très peu. Pas du tout.
Il y en a, bien sûr. Y en a.
À partir de 1, ça fait très peu.
Mais moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu cher pour un usage un peu finalement assez réduit. Donc il y avait...
Après, les films à réessayer, il faut trouver des proches que ça intéresse aussi.
Bien. Oui, mais justement,
quelqu'un veut mon film.
Non, bon. C'est aussi une manière de dire aux proches arrêtez de regarder des conneries à la télé, voyez ce qu'on vous propose, etc. Quoi. Bon, c'est aussi une manière de promouvoir l'arrêt, c'est quelque part.
Ça a été vite accepté dans l'équipe Utopia. Il n'y a pas eu des résistances liées à
ça
l'esthétisme,
s'est pas fait tout de suite.
La vision utopique que vous avez du cinéma.
On est Utopia quand même, donc c'était les discussions sont allées assez vite. Hein, le truc, c'était est-ce qu'on doit développer un logiciel pour ça. C'était surtout sur les questions pratiques qu'il a fallu discuter. Mais on avait fait une première séance à Bordeaux un an avant le lancement pour voir si potentiellement ça pouvait intéresser les gens. Donc on avait passé un film et on avait dit aux spectateurs si vous voulez récupérer le film sur votre clé USB à la fin, voilà, c'est temps. Et il y avait eu quand même 40% de la salle qui avait acheté le film en plus d'avoir payé sa place de cinéma.
Ah ouais, pas mal.
Donc bon, là on s'est dit, bon ok, on fait quelque chose.
Donc ça veut dire, parce que c'est, c'est extrêmement intéressant, puisque le cinéma, ça reste toujours une affaire de chiffres, justement, de chiffres d'affaires. Il y a eu la période 3D. Là, actuellement, il y a Luc Besson qui a inauguré à Roissy.
Enfin, la période 3D, elle est en train de s'achever, il me semble.
Oui, mais ça, j'allais y venir. Mais, mais Luc Besson.
Luc Besson. Si on invite à Robert, il n'est pas du tout de cet avis, mais.
Ceci dit, donc, il y a Luc Besson qui a ouvert cette semaine son multiplex à Roissy, où le prix d'entrée est à 25 euros.
Non mais là il s'en fout là, il s'en fout.
Pourquoi ? J'ai pas suivi ça. Pourquoi il veut faire un prix comme ça ?
Je veux dire, à part pour la bouteille de pas très bon champagne.
Parce qu'il y a des trucs.
Et le fait, qu'on n'a pas USB, la même faune.
Il y a des trucs ajoutés avec.
Bah non, je pense que c'est le fait que les gens ils en avaient marre d'aller au UGC les Halles et de se retrouver avec les Kaira qui ont la carte illimitée, qui vont voir qu'un soit le film et
non,
qui appellent pendant le film. Quoi.
Besson,
pas, mais...
il s'adresse aux Kaira, donc quel intérêt à... Pour 25 euros, qu'est-ce que
les Kaira haut de gamme.
Et qu'est-ce que t'as de plus à 25 euros ? T'as de la boisson gratuite
Ah oui, je crois.
Plus de place.
Non, je crois
qu'il y a effectivement. Popcorn bio ? Non, je sais pas.
Non, non, il y a le champagne et le tamara. Sinon,
tu peux regarder le cinéma dans une Audi.
Non, sinon, vous avez vu la semaine dernière, il y avait un truc assez amusant. Une étude qui montrait que le popcorn, en fait, empêchait de rendre efficaces les publicités.
Ah oui, je l'ai vu passer, ouais.
Je sais pas qu'est-ce que ça a amené comme réflexion dans les salles des gros circuits, mais ça doit être intéressant.
Alors, vous n'y êtes pas allé justement à la 3D.
Non,
manque de films.
On en a même fait un argument de promotion. C'est-à-dire que sur la Gazette, on met salle garantie sans 3D.
Ouais. C'est très bien.
Donc c'était une manière de s'amuser autour de la pression marketing qu'il y avait eu au niveau du lancement de la 3D, et puis en même temps de faire valoir notre spécificité. Quoi. Donc vous êtes une pierre de coup.
Rodolphe Village dans le supplément au week-end. Thomas avait une question.
Oui, tu as rebondi trop vite. J'avais une question concernant Vidéo en poche. Je suis allé faire un tour sur le catalogue tout à l'heure. Une bonne partie est occupée par les films de l'équipe de Groland. Est-ce que vous avez...
Ah bah ça c'est récent, on est super content d'avoir eu l'intégrale des films de Delépine et Kerver dans Vidéo en poche. Quoi. C'est depuis septembre, on l'a fait au moment du festival Grolandais de cette année. Et bah c'est grâce à Advitam, hein, c'est un peu le premier distributeur d'une taille moyenne, on va dire, qui nous accorde sa confiance pour ces films. Donc là, ça montre que le Vidéo en poche est en train de commencer à prendre, la sauce est en train de prendre au niveau des distributeurs.
Mais c'est tout bénef pour eux. Ils ont rien à perdre.
Mais non, mais les DRM et le prix leur posaient problème. C'était très très difficile de les convaincre.
Ah oui ?
Ah oui, oula, oui. Ça s'est pas
fait
tout seul.
Oui, bon, j'imagine que vu ta réponse, en fait, tu peux pas trop. T'as peut-être pas trop de visibilité sur les prochains distributeurs qui vont te confier leur catalogue. Est-ce que toi, tu aurais.
Je peux parler des prochains films là.
Oui, ah ben tiens, vas-y.
Là, il y a un truc marrant là. C'est. Je suis en train de discuter avec l'ayant droit américain sur la côte ouest pour We Are Legion. Qui est un film sur les Anonymous qui n'est jamais sorti en France, qu'on avait projeté à Utopia Toulouse, oui. Dont on a fait le sous-titre, et là qu'on devrait avoir en vidéo en poche, l'air partante, la distributrice, donc ça va être assez sympa quoi. Et ça ouais, enfin et puis ça colle bien à l'image qu'on veut donner de vidéo en poche qui a quand on avait fait la séance, la fameuse séance de test en 2009. On avait remarqué aussi dans le regard des gens cette espèce de côté brillant, comme si on passait un objet de contrebande. Et donc il y avait un côté pirate quelque part qui nous amusait bien aussi. Et là, avoir un film sur les Anonymous en exclusivité en plus, ça va être sympa quoi.
Et puis vive le numérique. Peut-être vous êtes contre la 3D, mais le numérique ça amène justement la possibilité de pouvoir rapidement sous-titrer quelque chose et le mettre en
voilà,
projection.
Voilà, c'est nouveau. Ben là, le 22 novembre, on fait une projection, une première projection française, même principe, on fait le sous-titre. D'un film qui s'appelle Terms and Conditions May Apply, qui est sur tout ce qui concerne les données privées par rapport à Facebook, Google et tout ça, enfin toutes les affaires récentes que vous avez pu suivre. Et donc, il y a un documentaire qui parle de ça. On fera venir Jérémy Zimmerman de La Quadrature du Net.
Oh non, pitié pas lui. Il a déjà ruiné un show, ça va, stop.
Parce que ça tombe bien, La Quadrature du Net a lancé une campagne européenne. Par rapport aux législations qui sont en train de se décider sur les questions de la préservation de la vie privée des gens. Donc ouais, là, ça c'est un des travaux intéressants que le numérique permet, quoi, effectivement. Ouais.
Concernant justement... Quoi ?
Bon, c'était juste pour faire une pause, donc vas-y.
Ouais, j'avais juste une dernière question concernant Vidéo en poche. Généralement, les gens qui se transmettent entre proches des films piratés, généralement, c'est souvent des qualités déplorables. Est-ce que toi, tu peux rassurer les gens qui vont mettre 5 euros dans la qualité des films qui seront sur la clé ?
On offre un service autant que... Oui, bien sûr. Donc, Je me suis basé d'ailleurs sur les qualités recommandées par les pirates.
C'est pas, c'est pas les screeners.
Non, sérieux, je me suis
avec le son de la salle.
Je me suis basé sur les, enfin sur les choix d'encodage qui étaient faits sur la scène pirate pour proposer la solution. Donc là, ce qu'on dit, c'est ce qu'on propose. En fait, on n'a pas toujours les sources HD des films. Pour les films art et essai, là pour l'instant on en a certains qui se remontent à quelques années, donc on n'a pas des sources HD. Donc ce qu'on fait au minimum, c'est le DVD, mais exactement l'image qu'on peut trouver sur le DVD, c'est-à-dire sans perte. Et quand on a un support HD, on va faire du 720p, ce qui est amplement suffisant pour les écrans actuels des salons.
D'accord.
Et ce qui, c'est la norme que la télé a choisie pour la haute définition d'ailleurs. Donc,
ouais. Et le fichier vidéo, est-ce que vous glissez des petites bandes annonces au début? Non, c'est juste le film.
C'est juste le film, pas de no bullshit comme disent Gandhi.
Alors rassure-nous, contrairement à certains films qu'on peut se procurer illégalement sur le net, le générique il est pas coupé, il est en intégralité, ça va jusqu'à la fin.
Non, dans les salles Utopia, on rallume pas la salle avant le dernier ligne de texte, donc on n'allait pas faire un truc différent en vidéo, donc évidemment il y a de l'intégralité. Par exemple dans Le Cosmonaute, qui est une des expériences assez sympas qu'on a fait l'an dernier, qui est un film là crowdfundé, comme disait Dastrich tout à l'heure, et qui est sous licence Creative Commons, donc il était disponible aussi sur le web, on le propose aussi en vidéo en poche, et à la fin le générique est interminable, parce qu'il y a tous les crowdfunders.
Oh merde.
Mais on l'a laissé.
D'accord.
Il fait quand même 10 minutes au moins, facile.
Rodolphe Village dans le supplément week-end, ouais. Sur Radio FMR. On va passer la bande-son de Princesse Mononoke, le thème musical, puisqu'il est diffusé, si je me trompe, ce mercredi sur Arte.
Ouais, tu me casses mes...
The Roubignol, oui, je sais.
Oh,
vous écoutez Radio FMR. Donc, Jo Hisashi, la bande-son, le thème plus exactement de Princesse Mononoke. Et nous sommes donc avec Rodolphe Village des Cinémas Utopia dans le supplément week-end, qui le pauvre commence à avoir chaud et qui se dit « Mais dans quel traquenard ils m'ont foutu !» Donc j'espère que tu, quand même tu es bien et très tu bien, n'as pas trop bien. Peur.
En attendant le retour du sport, moi je vais justement témoigner sur les expériences qu'on avait, que moi personnellement j'avais eues avec l'Utopia Toulouse, puisque moi je suis arrivé en tant qu'étudiant en 97 à Toulouse. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences cinéma dont je me souviens très bien, avec des films qui étaient introuvables ailleurs, ou même des ressorties, voir pour la première fois de sa vie un Peckinpah en salle, c'est voilà la Horde Sauvage.
La ressortie de la Horde Sauvage, moi aussi.
Ouais, il y avait ça, il y avait. Il y avait. Vous avez fait un double programme, Alfredo. C'était le Guet-apens, donc.
Et voilà. Puis il y avait Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia.
Voilà, c'était un double programme en même temps.
Ouais, ça c'était classe.
Il y avait, il y avait le Tsuyark Time and Tide que vous aviez passé également, donc c'était vraiment.
C'était très bon celui-là. Ouais. Là, c'est les films hongkongais dont parlait d'Astrich.
Oui, voilà, donc c'était la. Ouais, voilà. C'était à l'époque où le film hongkongais vraiment était vu partout, mais en salle pas trop encore, quoi.
Tout à fait. Ouais.
Bon, là c'était ma petite digression perso. Je sais pas si
puis,
Morgan.
Il y a eu, appris... les films sud-coréens hein, qui étaient.
Ah oui, bah là, je les ai tous fait chez vous, hein, The Chaser, le Memories of Murder et tout. C'était bon. À chaque fois, tu ressortais, t'avais envie de te pendre.
Alors, mais, quelle est la vague quelle est la vague de pays en ce moment qui est en train d'arriver
La Chine.
Non, des films.
Parce que si tu veux faire venir du sport, je te donne le truc, hein. Pendant qu'il est au téléphone là,
ouais,
il peut pas entendre.
Faut parler d'un...
Non. Bollywood. Mais là, tu fais des séances de cinéma de 4 heures.
On peut plus parler de cinéma nationaux aujourd'hui. Hein.
Des films indiens, il y en a pas tellement. Ben, l'an dernier, on avait fait Gangs of Wasseypur, Wasseypur, je sais plus comment on prononce, qui était très bien. Mais c'est quand même relativement rare qu'il y ait des bons films indiens qui parviennent jusqu'à chez nous, quoi. Non, en ce moment. Je vois pas trop de périodes particulières, enfin de pays particuliers qui émergent au niveau du cinéma mondial, quoi.
Moi, ça non plus.
Ouais,
Et est-ce que le cinéma français d'ARS s'exporte bien? J'en sais rien.
Non,
les films de BHL.
Oui, il y en a certains qui. Oui, il y a. Bah, Jacques Audiard, oui, s'exporte bien. Bah, parce qu'il fait des bons films.
Et à l'instar de Mireille Mathieu, est-ce qu'il y a des films qui sont considérés comme des merdes ici et qui s'exportent extrêmement bien français?
Ah oui, ça doit y en avoir. Ouais.
Il y avait un documentaire Boucherie française qui était passé sur Canal sur tous les films d'horreur qui sont très déconsidérés en France mais qui cartonnent à l'export.
Mais c'était de la peur.
Pas vraiment. Dis donc, toi, t'aurais pas du courrier?
Ah non, oui. Mais je crois qu'on a oublié quelque chose aussi, quoi. C'est de parler
de
cette soirée.
Tu nous casses tout là.
La soirée fantastique
avec
le programme.
Ah oui, voilà. Ce qui est étonné, c'est que vous ne demandiez même pas les films qu'on passait. Enfin,
Pour y arriver après, oui.
Bah, justement, quoi.
Bah oui, Sport, tu as tout à fait raison. On en parle après ?
Oui, bien sûr. C'est juste pour rythmer un peu.
Bon, cette fois, il est l'heure du courrier des audilecteurs.
Oh mince.
Et c'est mieux avec un générique derrière.
Moi, je préfère. Parce que je dis pas que tu chantais pas bien, mais bon.
On s'entend pas parler, Xavier. C'est mieux.
Alors, comme le veut la longue tradition du courrier des audilecteurs, puisque nous en sommes au numéro 10,
déjà,
je commence cette chronique avec mes fameux 25% de vieux courriers en retard. D'ailleurs, cette semaine, ce chiffre sera plus de l'ordre de 33,33333333333%. Sans plus attendre, découvrons tous ensemble le vieux courrier du jour. Alors, j'ouvre mon enveloppe, voilà. Alors, très bien. Ah, ça commence bien. Félicitations Morgan, vous êtes l'heureux gagnant de notre grand concours. Maintenant je suis tellement riche que même Crésus il me doit du fric. Vous remportez l'équivalent de la dette française directement sur votre compte en banque. Simple formalité, pour bénéficier de votre fortune, il vous suffit de renvoyer oui je veux être méga riche, putain, ça a l'air trop bien. Donc de répondre à ce courrier avant le 1er janvier 2012. Encore bravo.
C'est ballot,
c'est con.
J'en ai marre de ce courrier. J'en ai vraiment marre. C'est écrit la loseuse des jeux. Bon, allez, je passe. Ça, c'est le quota est fait. Bon, le suivant. Salut les gars, c'est Riri. Ah, le fameux Riri. Est-ce que vous vous rappelez de Riri? Non, il se rappelle pas de Riri.
Riton.
Ben voilà, exactement. Bon, c'est la crise, là. J'ai plus de clients qu'appelle et tout. Donc, je me disais que vous pouvez faire un petit peu de pub, là, en parlant un petit peu de ma boîte d'aide sociale, quoi. Très bien, Riri, évidemment. Nous ne pouvons bien évidemment pas déroger aux responsabilités qui nous incombent, surtout lorsqu'il s'agit d'aider son prochain. Alors, l'entreprise d'aide sociale de Riri se prénomme Un petit coup de fil pour un petit coup de fille. Voilà, toutes les informations sont sur le site de l'émission, bien entendu,
supplémentweekend.fr. Je rappelle que c'est un courrier des auditeurs spécial crise économique. Donc merci Riri d'avoir mis évidemment un bon de réduction pour Xavier dans ta lettre. Alors là...
Hey, t'as bien fait de revenir toi.
Toi il
quoi
peut arriver des problèmes.
Mais c'est Riri, j'y peux rien.
Bah c'est Riton.
C'est Riton, merde. Alors j'ai un dernier courrier. Très gentil, bonjour à toute l'équipe, donc bonjour. Je suis un grand fan de l'émission et j'achète toutes les BD dont vous parlez si bien. Ah. Seulement voilà, à force je n'ai plus les moyens de payer mes factures de chauffage et hier on a eu très très froid chez moi. Du coup je n'ai rien trouvé d'autre que d'autres solutions que de brûler mes BD et les livres que j'ai accumulés avec le temps. Donc je tenais à remercier tout particulièrement Thomas pour sa chronique sur le artbook des storyboards Star Wars la semaine dernière.
Il a fait beaucoup de pages à brûler.
1000 pages, on a eu très très chaud, donc c'est signé Tom Sauver, plus de papier.
Tom Sauver, d'accord.
Ok. Quand même, Rodolphe est là pour parler justement de sa cinquième nuit fantastique.
Alors, c'est bien parce que tu vois, t'as eu deux génériques cinéma pour toi tout seul, t'as
voilà.
Vu
voilà.
C'est rare.
Et on en a encore d'autres. Hein.
Donc la question, c'était quoi?
C'était quels seront les films présentés dans ta soirée voilà. Le 31 octobre au cinéma Utopia Tournefeuille.
Alors, donc il y a cinq films, dont un film surprise. Juste un petit détail, le film surprise, exceptionnellement cette année, fera l'ouverture. Oui, merci.
Pardon, il fera l'ouverture.
Il fera l'ouverture. Et petit indice, c'est un film qui vous mettra en appétit, je pense. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Mama, qui est un film produit par Guillermo del Toro. Voilà. Et puis, on est aussi très content d'avoir The Thing de John Carpenter, en copie 35 mm quand même. Ça se fait rare de nos jours.
Ouais. Ouais, ah, il va falloir ressortir le projo, oui.
Ouais, on l'a gardé. Et après, on aura Evil Dead 2013. Alors, on a eu des gros débats sur est-ce qu'il fallait ou pas passer Evil Dead 2013. Bon, moi, j'aurais préféré passer Evil Dead 2, mais il y a des gros fans d'Evil Dead 2013. Donc, on passe Evil Dead 2013 et il faut avouer que c'est quand même un monument du gore trash.
C'est
ça fera pas mal.
C'est peut-être pour rajeunir votre clientèle.
C'était un peu l'idée, je pense, hein, avec mes camarades. Et en dernier, on fait pour terminer la nuit dignement, le dernier pub avant la fin du monde.
Voilà, film anglais bien.
Voilà, pour se réveiller à la fin, c'est très bien. Quoi.
Ouais, au moment où les restos ou les bars sont fermés autour, donc c'est un peu dommage.
Oui, mais bon, ça, on aura de quoi se sustenter durant la nuit. Et puis, alors il y a donc le DJ, puis le buffet, tout ça, et puis on a la soupe à l'oignon vers 4h du mat. Le café le matin, les croissants, tout ça, c'est sympa quoi.
Non, mais c'est une vraie soupe à l'oignon ou c'est de l'instantané que vous faites
Ah non, c'est une vraie soupe.
Ah bon, ok.
C'est toute l'équipe du bistrot qui participe.
Ok.
Ils font la nuit avec nous et tout. Non, c'est.
Alors, une petite question, ces films-là que vous programmez pour cette soirée-là, est-ce qu'on a la chance de les voir dans la programmation classique après?
Et non, c'est toute la particularité. C'est qu'en général, ces films-là, bon, c'est pas le genre de film qui marche le plus chez nous, donc on les programme pas pendant 5 semaines. Si, certains on en passe bien sûr, mais bon là il se trouve que ceux-là sont déjà passés dans d'autres salles, donc c'était pas nécessaire. Non, là c'est vraiment pour la nuit fantastique qu'on se fait plaisir sur ce genre de film quoi.
Ouais, alors c'était une blague qu'on avait en off avec Xavier, mais tant pis, je vais quand même la mettre au micro. Justement, ce type de soirée, est-ce que ça...
Il y a mes collègues qui vont m'assassiner si je parle pas de la dernière séance.
D'accord.
Non, parce que quand même, on a une case spécifique qu'on a créée aussi, une fois par mois, qui s'appelle la dernière séance. Ça parle de soi-même et chaque mois on essaie de trouver une rareté, un film en avant-première ou des
Trucs
un peu série Z ou un peu décalé qu'on aurait du mal à passer autrement.
Un bon Eurociné, le lac aux zombies morts-vivants.
Non, mais bon, par exemple, la prochaine, c'est Henry Portrait of Serial Killer.
Donc, oh, c'est pas de la Z, ça.
C'est pas de la Z. Non, non, mais c'est des films un peu plus.
Que je crois que j'avais décalé, vu la Lutopia quand il était sorti.
C'est possible.
et alors, c'est à la dernière séance, c'est à Tournefeuille toujours ?
Non, ça, c'est à Toulouse.
À Toulouse, d'accord.
Ça, c'est à Toulouse. Ouais.
Et alors, justement.
Ah oui, on va passer à celle d'après, ça sera Iron Sky. Vous connaissez Iron Sky,
les nazis qui sont allés sur la lune. Ouais, c'est voilà. Un film crowdfundé en Allemagne qui a fait un débat monstrueux justement est-ce qu'on a le droit de crowdfunder un film qui met en scène des nazis dans le rôle des gentils, quoi.
C'est un peu le coming out antifasciste de la dernière séance, quoi, avec Iron
D'accord.
Sky.
Voilà.
qui paraît très drôle et évidemment drôle. Tout en Calvin Klein.
La dernière séance.
Non, c'est du Hugo Boss. Pardon.
Alors justement, ces programmations un peu.
Bon, bah dans ce cas-là, vous allez pouvoir passer Dead Snow aussi.
Dead Snow, alors celui-là je ne l'ai pas vu. Par contre, j'aimerais bien passer Le Territoire des Loups par exemple, dans cette case-là, qui était plutôt réussi dans le genre.
C'est le Joe Carnan ?
Peut-être bien, ouais.
Avec Liam Neeson.
Exactement, oui. Voilà, c'est le genre de film qu'on passerait pas normalement en programmation. Et on aura peut-être, on est en négociation avec Pathé pour essayer d'avoir le documentaire sur le fameux projet Dune de Jodorowsky.
Oula.
Alors ça, on espère beaucoup l'avoir, peut-être en 2014 là, mais bon, c'est
moi j'aimerais bien quand même que Storyboard qui avait fait Moebius à une époque sorte des caves de Studio One.
Il n'y en a que deux exemplaires dans le monde du fameux projet, donc ça va être chaud, je crois. Je crois qu'on pourra pas l'avoir.
Bon, on le regardera sur Arte.
Ouais, voilà.
Tu parlais d'un renouvellement voulu de ta clientèle habituelle. Cette clientèle habituelle, à quoi ressemble-t-elle ? Nous pensons qu'elle ressemble plutôt à des, on va dire à des.
Pas de vacherie sur JB.
Non, à des profs de philo mal coiffés. Mais bon, je rigole.
Franchement, à Toulouse Centre, il y a de tout. Hein, franchement, c'est de 7 à 77 ans, j'aurais envie de dire. C'est pas. Après, c'est sûr, oui, il y a un public RSC qui va plus chez nous, donc. Ouais, des profs de philo mal coiffés, il y en a, c'est sûr. mais okay. Bon, il y a des jeunes, des vieux, des gamins. Y a un peu
mal coiffés aussi.
Mais bon, évidemment, on propose pas les films popcorn, donc tout le public. Mais bon, les gens vont pas voir qu'une seule sorte de film, je crois. Hein, donc ils vont aussi voir les films popcorn et ils vont voir des fois chez nous d'autres films. Quoi, voilà, c'est pas...
Oh, des films popcorn en cherchant bien, vous en avez passé aussi.
Oui, on en passe.
Les Coen, ils font aussi du popcorn aussi. Hein.
Ah, bah, le prochain Coen, qui n'est pas un film popcorn, mais le prochain Coen, là je vous le recommande, Inside Lewin Daniels, c'est vraiment un bijou, quoi. On va le sortir très prochainement, ça.
On peut prendre du popcorn quand même.
Non, ça c'est interdit chez nous.
D'accord, ça c'est dit.
Bon, pour ce qui est du planning qui reste, moi j'avais prévu une BD, mais comme je suis là la semaine prochaine, on le reporte. Je sais pas, on fait chronique BD vu l'heure qui reste, quasiment 13h.
Il y a le temps, hein, de toute façon.
Il y a le temps ?
Oui, sans problème.
Poste chinette, hein. Elle va arriver en disant mais j'ai de l'actu.
Non, elle n'arrive pas, elle ne sera pas là tout à l'heure.
Bon, très bien. Dans ce cas-là, je vais commencer avec ma chronique BD. Dans ce cas, je recale, hop, je reviens en arrière. Hop, avec une bande dessinée qui est pas mal du tout, qui moi a été le coup de cœur et pourtant j'avais franchement un gros a priori là-dessus. Il s'agit de Gung Ho. Gung Ho, c'était l'expression que se donnaient les Américains lors des guerres en Asie en disant que c'était des têtes brûlées, qu'ils étaient capables de tout et tout ça. On le voit dès, on en voit l'inspiration d'ailleurs dès la couverture de l'édition normale, puisqu'on a les deux éditions là sur le plateau. On va vous gazouiller les photos. Benjamin von Ekasberg au scénario et Thomas van Comant au dessin. Je suis désolé pour les prononciations. C'est aux éditions Paquet.
Ah mais c'est des Belges, hein, qu'est-ce que tu veux ?
Non.
Même pas.
Et on est à une époque où l'homme n'est plus vraiment le maître tout-puissant de la planète. C'est une époque qui est toute proche, là, tout juste à côté, et où les campagnes seront devenues mortelles. Les villages se sont fortifiés et les villes, rares endroits théoriquement sûrs, elles sont carrément des citadelles. L'humanité survivante s'est recroquevillée en communautés fermées qui communiquent entre elles par des convois de trains armés et blindés. Les dix convois sillonnent une Europe redevenue sauvage, ruine irréelle. Et belle d'une gloire passée. Zach et Archer, orphelins un peu turbulents, sont expulsés de la ville et envoyés se faire voir vers la colonie numéro 16, 400 habitants dans un village fortifié qui se renommait Fort Apache, en référence à ce qu'on appelait des films auparavant. Une petite communauté agricole qui a du mal à surveiller ses propres limites. Un petit groupement d'hommes et de femmes avec leur stupide lutte de pouvoir et ces factions qui guettent le moindre faux pas du voisin. Surtout entre l'officier municipal Baxter et Mademoiselle Kingston qui est la chef de la communauté. Il se murmure d'ailleurs que chacun a ses petits secrets et les trafics pas du tout avouables. Bref, si le danger n'est pas aussi fort, les adultes seraient déjà battus. Et on y a débarqué les frères Good Woody, ados remuants, en espérant qu'ils y fassent pas de vagues. Le problème, c'est que c'est des adolescents, et quand on met des interdits à des adolescents, eh ben, ils vont outre. Et quand on est dans un monde où ton espèce est devenue une proie, ça peut mal se passer. Les images en couleur directe sont superbes, le style graphique est magnifique, quant à l'histoire, eh ben, elle laisse fort habilement monter la sauce. Mettre en scène des adolescents, c'est passer par les clichés obligés, comme les scènes de flirt pendant les cours au lycée. Sauf que si le cours vous apprend à manier les armes, à démonter et à remonter un AK-47, ben je vous laisse imaginer les risques des crises de jalousie. Bien évidemment, je ne vous dirai pas quel péril menace ces hommes, c'est beaucoup plus drôle de vous laisser imaginer que ce sont des zombies. Une série qui devrait beaucoup plaire justement parce qu'elle traite d'un sujet vu, revu, traité, retraité, d'une manière finalement différente et pas mal du tout. L'histoire est prenante, le livre est superbe, cela augure d'une belle série. Benjamin Van Elskadberg et Thomas Van Cumont, Gung Ho. Le premier tome sur 5 qu'on comportera la série s'appelle Brumi Galès, c'est aux éditions Paquet et on a les deux premiers tomes, enfin on a le premier tome et en fait on a le hors-série en plus grand, ce qui permet justement de profiter encore mieux de cette illustration.
Oui, hors-série, je pense que nous ne pouvions nous procurer qu'au dernier festival d'Angoulême. je ne suis pas sûr qu'on puisse encore se le procurer. Alors oui, pour la petite histoire, les deux auteurs avaient commencé et n'est pas fini donc l'album. Et c'était une surprise qu'on pouvait se procurer, moyennant finance bien sûr, sur le stand Paquet pendant le festival d'Angoulême. Et c'est une grosse édition, la moitié du tome y est dessus. Et c'est une grosse édition puisque c'est une édition en grand format.
Alors bizarrement, tu ne l'as pas lu.
Et je n'ai pas eu le temps, oui. Effectivement, Nicolas Anspach, si tu nous écoutes, je suis désolé.
Oui, enfin bon, on va pas faire de la pub pour l'éditeur, même si c'est un copain. Graphiquement, il est beau. Moi, je vous le recommande vraiment. Et finalement, j'ai les couleurs pétards, l'histoire d'ado et tout ça. Bah non, franchement, j'ai adoré. J'ai kiffé, voilà. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur de ce mois-ci. Gung Ho. Premier tome s'appelle Brumi Galès. Thomas, qu'est-ce que tu as de ton côté?
Là, j'ai des trucs vachement plus gore, par contre.
Yes. Aïe.
Donc là, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais chroniqué le premier tome de Candy Mountains.
Oui.
Qui était une bande dessinée implacable et excessivement gore. Je transmets le tome 2.
Je te le rends pas.
À du sport. Moi, personnellement, j'avais fait la connerie de le lire avant de m'endormir.
Et t'as pas dormi.
J'ai dû lire une autre BD après. C'était le tome 1, mais vraiment. Alors, l'avantage, c'est que l'histoire se finit avec ce tome 2. Donc, c'est un diptyque. Alors qu'elle se préparait à un procès à l'encontre d'un ex-compagnon violent, Alice, médecin urgentiste, et sa fille Maya ont été victimes d'un accident de la route et se retrouvent donc dans le coma. Ou plutôt dans un monde cauchemardesque. Représentation de l'hôpital dans lequel elles sont dans le coma, mais version alternative avec un tueur en série qui trucide par moult pièges et moult façons de tuer des jeunes qui sont vraiment traumatisantes. Ça se passe dans des couloirs rouillés.
Ouais, avec, et puis il y a une salle de torture aussi.
Un truc bien humide, bien désaturé, bien vert. Voilà. Alice, il retrouve ses patients. Ses propres patients, il doit protéger sa fille coûte que coûte du tueur, mais également des autres patients, justement qui reprochent à Maya justement d'amener ses peurs avec elle. Et donc, comme le tueur en série est attiré par les peurs, il est attiré donc par tous les autres survivants. On voyait poindre la métaphore, comme la petite Maya était fille d'un battu, donc évidemment que le tueur représentait ce fameux père violent, etc. On était loin du compte, puisque vraiment les deux auteurs dans, cette, dans ce deuxième tome vraiment se coltinent du full frontal avec cette métaphore là, ils l'assument, ils en parlent, la bande dessinée est vraiment dirigée dans cette direction là, c'est pas oui pour les plus intellos si vous avez vu ça, non c'est, ils en parlent et tout. Les deux héroïnes parviennent à échapper au tueur en série à la fin du tome 1, la mère se réveille, finit le cauchemar heureusement, sauf que elle est paniquée et puis ses proches pensent l'aider et donc la remettent dans le coma. Donc elle revient dans les couloirs avec le tueur en série. Ça tombe bien, sa fille était encore dans le coma, donc elle va essayer de la sauver. Dans le tome 2, on est moins dans le gore, on est moins dans les sévices et les tortures, on est beaucoup plus dans le vrai monde, dans l'hôpital, puisqu'elle revient, elle arrive à se réextirper et parvient à communiquer à ses proches ce qui se passe dans le coma. Forcément, personne ne la croit. Et le tour de force des scénaristes et du scénariste et du dessinateur, c'est que justement, ils arrivent à faire passer le vrai hôpital, le vrai monde, comme peut-être plus cauchemardesque que le monde du cauchemar. Ah, parce qu'ils arrivent à trouver des règles pour essayer d'échapper au tueur. Et dans le monde réel, y a les flics qui la croient pas. Ils voient qu'elle a un comportement bizarre. Pourquoi il y a des flics? Parce qu'ils s'aperçoivent que tous les comateux, ils meurent tous les uns après les autres. Donc ils commencent à suspecter des humains. Et les soupçons se portent sur la mauvaise personne. Donc voilà, sachant qu'il y a sa propre fille qui est toujours dans l'univers alternatif. C'est pas gay, hein. C'est pas gay. Je n'en dirai pas plus parce qu'il y a vraiment des conclusions à toutes les questions qui étaient restées en suspens dans le tome 1 qui ont toutes leurs réponses là. Ça fait froid dans le dos. C'est une bande dessinée qui peut être conseillée justement à des associations ou des personnes qui ont été battues dans leur enfance, puisque c'est une vraie métaphore et donc c'est peut-être un moyen d'aborder le problème là. Candy Mountains, on apprend aussi la signification du titre et donc une conclusion logique avec les bonnes réponses. Voilà, Candy Mountains tome 2, c'est toi qui as les références. Donc Nico, scénariste, et Benoît Bernard est le dessinateur. Benoît Bernard qui vient du monde de l'animation. Définitivement son point fort c'est le rendu des visages, c'est pour ça qu'il accumule aussi les plans serrés. En même temps, dépeindre une histoire qui se déroule en deux tomes sur un hôpital, c'est pas forcément très sexy non plus, surtout que tout le monde est habillé de la même façon avec les habits les réglementaires, de patients. Donc c'est vrai que justement accumuler et faire des points, des contrepoints avec le sens du cadrage très serré sur les visages, ça peut aussi permettre de reléguer au second plan ces décors là. Candy Mountains tome 2 dans le label All Steel Holster, donc c'est le label polar d'Ankama par Nico et Benoît Bernard.
Combien de tomes prévus pour la série?
Je l'ai dit tout à l'heure. Deux tomes, série.
Désolé. Sinon, j'étais en train de monter en même temps.
On enchaîne avec le deuxième album que je vais chroniquer ici. C'est aussi le tome 1 d'une série en deux volumes. Tome 1 d'une série en deux volumes. Ça s'appelle Maori. Le tome 1 s'appelle La Voix Humaine. Et donc c'est un polar qui se déroule en Nouvelle-Zélande pendant les élections néo-zélandaises. Un thriller politique puisque la fille de l'un des deux candidats est retrouvée morte sur une plage. On apprend au cours du tome qu'elle avait des traces de drogue et d'alcool dans le corps, donc ça fait mauvais genre pour la fille du candidat. Les deux candidats, donc il y a le premier ministre en titre, en poste, qui appartient au parti conservateur, qui s'appelle Kirwan, et son adversaire, donc le père de la défunte, en fait s'appelle Whitaker, et donc c'est le représentant de la culture maoriste, hein, donc un candidat maori. Son parti s'appelle La Voix Humaine et il propose une nouvelle voie pour sortir son pays et le monde de la crise. C'est par exemple annuler la dette des pays du tiers-monde ou des pays émergents envers les pays riches, et également de proposer une refonte de l'école, du système justement de l'éducation. Alors ces idées ont du mal à passer, trop extrémiste pour certains, il va pas assez loin pour d'autres. Le héros Jack Kinu, c'est également un flic maori, plutôt ripou sur les bords puisque il aime bien la nuit s'encagouler et puis aller rançonner la pègre. Voilà, avec des méthodes violentes, quand il va interroger dans les bars, s'il peut casser quelques tibias, il le fait aussi.
Plaisir d'offrir.
Il a été quitté par sa femme il y a 7 ans. Il s'est toujours pas remis de ça. Il vit seul avec son petit chat. On voit qu'il y a une balle qui traîne sur la table basse. on est clairement dans le polar hard-boiled des années 80, période Arm Fatal, Mel Gibson suicidaire. Voilà, si vous voyez un peu 48 heures, les films, les polars comme ça, on enlève les blagues. Par contre, on est dans le côté frontal, c'est-à-dire on va pas s'embarrasser avec une mise en scène autorisante ou artistique. Non, non, c'est, on a un truc à raconter, on le raconte, point barre, on va pas plus loin. Voilà, on est clairement là-dedans. Le scénario, c'est Caryl Ferré qui est derrière. Donc c'est un romancier, pour ceux qui...
Oui, justement, le nom me dit quelque chose, quoi. C'est un auteur de polar,
Auteur de polar, voilà. Qui a été multiplement primé partout. Prix SNCF du Polar 2005 pour Outou. Grand prix de la littérature policière 2008 pour Zulu, puisque c'est quelqu'un qui est tombé amoureux justement de la Nouvelle-Zélande à travers les deux romans Aka et Outou. Et Zulu, qui concerne l'Afrique du Sud, dont l'adaptation au cinéma est en train d'être tournée par Jérôme Salle, qui est le réalisateur du premier Largo Winch, avec Orlando Bloom. Voilà, donc le nom va être recité prochainement dans les chroniques cinéma. Donc ça, c'est pas une adaptation, c'est un scénario original, Caryl Ferré, qui l'a écrit pour ce tome-là. Mise en image par Giuseppe Camuncoli, qui est un dessinateur qui a particulièrement œuvré pour Marvel, pour l'industrie du comics. Le dessin, il peut diviser. Moi personnellement, j'adhère pas trop parce que c'est un trait très 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 épais qui laisse peu de place aux subtilités. Par contre, ça densifie le côté polar, vraiment ce côté frontal avec les personnages. Alors c'est vrai que de toute façon, à part le légiste et la nana, l'ex-femme, c'est tous des mastocs, c'est tous des rugbyman de Neo Z en puissance, avec les tatouages maori en plus. C'est que voilà des gars carrés, donc forcément la subtilité.
Là, on dirait que le mec il a fait du Wolverine, quoi.
Ah oui oui. On voit la patte derrière du dessinateur de comics. Voilà, c'est que des mastocs, donc forcément la subtilité, on s'en fout un peu. Donc c'est vrai que son trait colle bien avec ses personnages. Voilà. Ça se passe essentiellement de nuit. On voit que c'est une atmosphère polardeuse. On voit aussi la patte du romancier derrière, parce que c'est beaucoup plus riche que certains scénarii de bande dessinée classique. On voit qu'il y a le traitement du thriller politique, avec tout ce qui est derrière, donc les financiers, le rapport aux médias, ce que ça implique en termes du discours politique derrière, ce que ça, voilà, le conservateur d'un côté, une nouvelle voix de l'autre, avec des... Je pense qu'il va y avoir des questions morales qui vont se poser à un moment donné dans le tome 2, puisque on voit clairement le thème de l'assassinat politique qui est derrière, puisqu'on a touché à la fille pour atteindre le père. Le père, pour l'instant, il est trop lumineux pour être honnête. Généralement, dans les polars, quand il y a un ange qui est dépeint tel quel dans le premier, tu sens que ça va y avoir un retournement. Je vous parie que c'est lui qui est derrière ça. Mais bon, ça c'est un avis perso.
Le spoil.
Ah non, pas de spoil du tout, c'est une interprétation libre et personnelle, y a rien, aucun indice qui ne laisse supposer ça. Donc c'est aussi la patte des polars de te faire ressentir ça, hein, Thomas, c'est pour ça que j'avance des paris.
Ouais, ouais, non, mais bon, par rapport au Candy Mountains, quoi, tome 2, quoi, où tu dis justement que, bon, bah, ceux qui ont lu le tome 1, quoi, bah, ils s'attendent pas du tout à ça, et c'est pratiquement le contre-pied. Dans le tome 2, peut-être qu'on va avoir la même chose pour le Maori, quoi.
Ouais, c'est clair. Donc on rappelle la référence, donc j'en dis pas plus, hein, vraiment, si vous aimez les bonnes histoires en bande dessinée, c'est dommage que ce soit court, il y a deux tomes et ça se lit vite. Hein. Voilà, si vous aimez les thrillers politiques, les bons polars nocturnes, oui.
Je peux rajouter un truc à la chronique,
oui.
BD.
Oui.
Il y a.
Ouais, parce que c'était la question qu'on allait te poser, c'est qu'est-ce que tu lis comme BD ?
Alors là récemment, j'ai découvert une vieille bande dessinée que Casterman a ressortie en août, qui s'appelle Le Transpersonnage.
Ah oui.
Voilà.
Ouais, une adaptation.
Alors je ne la connaissais pas. C'est vraiment très très bien.
Une adaptation qui avait été faite en 95. Si
voilà.
Ouais. Bien, ouais.
Et j'en profite pour souligner qu'on l'aura à l'affiche dans nos salles.
Est-ce que tu peux citer de mémoire le réalisateur ?
Oui, c'est Bong Joon-ho, bien sûr.
Donc, qui a fait...
Fait The Host, qui a fait Mover, qui a fait des trucs formidables.
Le gars qui n'a fait que des chefs-d'œuvre.
Oui, en gros.
Des bons films, en tout cas.
Memories of Murder, dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà. Voilà.
Ouais, et toi-même, qu'est-ce que tu lis à part ça en bande dessinée, est-ce que tu as maintenant que le Virgin est fermé à côté de
une de mes bandes dessinées cultes des dernières années, c'est Transmétropolitane. J'aime beaucoup.
Ouais, ça date un peu, quoi.
Ouais, mais bon, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps.
C'est bien fumé, hein.
C'est bien fumé, mais bon, j'aime beaucoup. Sinon, bah, j'ai lu The Boys aussi, qui était pas mal.
C'est
marrant. Ouais, voilà.
C'est pas fini encore.
Il reste un tome encore.
Ah, non, il reste encore un tome.
Ah, il est paru. Hein. Ah, oui. Ah oui, la série est finie. Là, faut vous mettre à la page, les gars.
Ah, non, non, il reste un tome.
Comment ça?
Que j'attends avec impatience.
Alors, si tu as lu
la charge de la brigade légère, c'est le dernier tome, non?
Non, justement.
Oh, je ne savais point.
Parce qu'on voit le.
T'es pas reparti pour rien.
On voit le coupable encapé, mais derrière, on sait pas qui est derrière.
Ah,
eh oui.
Oh.
Eh oui. Eh oui.
Merci pour
la. Regarde la numérotation par rapport aux périodiques qui sont sortis, puisque bon, bah, c'est sorti d'abord en périodique aux États-Unis, puis c'est relié quoi pour la version française, quoi.
Wow. Affaire à suivre.
Donc on est très content que spontanément notre invité nous parle de The Boys.
Ah bah oui là.
Duce il est à fond. Et toi-même qu'est-ce que tu regardes à la télévision puisqu'on va enchaîner sur le programme télé?
Eh ben comme des millions de gens, j'ai regardé Breaking Bad le lendemain de sa diffusion US.
Sur quelle chaîne?
Je sais plus.
Ah d'accord. Ok.
Ah bah tiens, il y a du sport qui te montre une couverture d'un comics par le scénariste de The Boys, Garth Ennis.
Et le dessinateur. Hein.
Le dessinateur aussi.
John
ouais.
McGree aussi, quoi.
Ah oui.
Qui a fait pas mal de. Qui a fait le Hérogas, Manto, entre autres. Enfin, qui en a fait pas mal, quoi, de The Boys, quoi. Qui a remplacé à l'aise Darick Robertson, qui est le dessinateur original de The Boys.
Et le meilleur de la série, oui.
Oui. Attention des goûts, des couleurs et des flingues.
Non, mais bon, c'est le meilleur parce que c'est le premier.
Ouais, quand même.
Voilà, c'est lui qui a un style.
Ça, c'est un argument, tu peux pas tester. Ouais,
tu peux pas tester.
Voilà, tu peux pas tester.
Je te le conseille, celui-là.
Ouais, ok.
Ouais, vraiment, quoi.
Merci.
Ouais. Rien à voir avec The Boys, mais.
Je lirai, ouais, je lirai.
Bon feeling et tout.
Voilà.
Ouais.
Ce n'est pas moins violent.
Non. Mais c'est vachement plus rigolo.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. Du sport.
Oui. Ah bah justement, il y a des séries.
C'est la loi.
Alors, tout d'abord, demain soir sur TF6 à partir de 20h50, Nashville.
Nashville, Tennessee.
Oui, Tennessee, bien sûr.
Ah.
Pourquoi, vous connaissez un autre Nashville, vous?
Oui, dans les Quentin et Yveline.
Ah bon, d'accord, ok. Alors, Nashville, l'histoire de deux gonzesses. Qui sont un petit peu des Shania Twain, on va dire, c'est-à-dire des country girls modernes qui font de la musique que c'est même plus de la country, que c'est vraiment de la merde, quoi. Ça, c'est mon avis personnel.
Oh, bravo.
C'est mon avis personnel, mais enfin bon, il y en a qui aiment bien, quoi, de toute façon, quoi. Et donc, cette série, instillée par ABC au départ, la chaîne américaine, eh ben, nous propose l'histoire de deux nanas, justement. L'une est sur le déclin et l'autre essaye de grimper. Et donc, ça va être le fight, quoi.
Grimper.
Grimper dans les charts, ouais. Grimper dans la notoriété. Et donc, ça va être le fight entre les deux. Bon, le truc qui peut être très intéressant, c'est que les deux nanas sont interprétées par des actrices qui sont connues en tant qu'actrices, mais qui sont également connus, pas chez nous, mais aux États-Unis, en tant qu'interprètes de musique country, qui ont déjà sorti des disques et tout. La plus connue, c'est Hayden Panettiere, hein, qu'on avait vu dans la cheerleader de
Heroes.
Heroes, voilà.
Et les chanteuses de country, là.
Ah oui.
Je te rappelle que la country aux États-Unis, c'est 80% programmation musicale des radios.
Non, mais oui, mais l'actrice que tu as vue dans une série, pas forcément chanteuse de country, désolé.
Elle doit en être à son troisième album, tranquille. Et. Album qui fonctionne, qui marche et qui se vende. Aux États-Unis, bien sûr. L'autre, c'est Connie Britton, on la connaît un petit peu moins ici en France, mais c'est également une nana qui s'est fait connaître et par la participation à des films, des téléfilms, des trucs comme ça, quoi. Mais qui a également enregistré des albums de pure country, quoi. La particularité de cette série, et c'est là que ça peut être intéressant, c'est qu'au contraire d'autres séries, qui sont toutes tournées dans les mêmes endroits parce que ça coûte moins cher. Vancouver, Canada, Ottawa, Canada, Canada, parce que c'est moins cher qu'aux États-Unis. C'est que ça a été tourné vraiment en décor naturel, c'est-à-dire à Nashville. Et donc là, ça peut être très très intéressant. Connie Britton, on l'a quand même déjà vu dans pas mal de séries. Friday Night Lights, qui est une excellente série de sport sur le foot américain universitaire. 24 heures, on l'a vu dans West Wing, on l'a vu dans Spin City. Donc bon, on peut dire que bon, elle a pas joué dans des trucs de bouse, quoi. Eric Close est également en présent dans cette série. Eric Close, le mec de Vieille Portée Disparue, oui. Entre autres.
Ouais, le jeune. Hein.
Le jeune, voilà. Voilà. Sinon, on a également... Alors, ça, c'est un petit peu plus casse-gueule comme concept, parce que ça s'appelle Bates Motel. Et là, ça parle à tous les cinéphiles du monde. De toute façon. Et c'est la... Et c'est la série qui se propose...
Non, mais en plus, il rigole. C'est quel film, alors?
Shine.
Non, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, ouais. Allez, vas-y, on t'écoute. On t'écoute.
Connard. Toi, t'as pas. Vérifie, ferme la porte quand
non,
tu
mais
te douches,
c'est
toi.
C'est nerveux, c'est nerveux.
Très bien, on va demander à Morgan maintenant.
C'est nerveux.
C'est Shine.
Hein?
C'est Shine.
Hey,
c'est The Boy, ça va, j'ai suivi.
On peut les frapper
bon,
quand même. Hein.
Bon, alors, j'en reviens. Bates Model.
Picose.
Ça, c'est.
Non, mais Xavier, il m'énerve là.
Ce sera diffusé sur 13ème rue vendredi prochain à 22h15 parce que le sujet est un peu délicat, on va dire, pour passer en prime time. Alors, l'idée instillée par Carlton Cuse, qui est quand même le type qui nous a fait Briscoe County Jr., qui nous a fait Lost, qui nous a fait Nash Bridges.
Entre oh, ouais. Oh, tu, c'est un, on va dire un panorama très large. Hein.
Oui, ouais, mais bon, ouais,
entre Lost là, et Nash Bridges, c'est.
Ah bah écoute.
Lost, c'était quand même une bouse, vous êtes d'accord avec moi, non?
Ah non, c'est un scénario tellement bien ficelé que personne n'a rien compris, puisque c'est le vrac total.
Sauf la dernière saison.
Tout à fait.
La dernière saison, t'as aimé la conclusion?
Bah c'est parce qu'il y a un de mes acteurs fétiches dedans, quoi.
C'est
que je me rappelle pas son nom.
Michael. Voilà, allez.
Michael Dudikoff.
Ah, ouais, d'accord,
eh oui,
OK.
Eh oui. Barbu en oula. Plus quoi.
Ah, sur un bateau.
Ben oui, c'est eh survivant, ouais. Il est barbu forcément.
Ben oui. Alors donc Bates Motel quoi. Le principe c'est pas de se dire c'est une préquelle mais quand même. Mais c'est la série qui va s'attacher au rapport qu'entretient Norman.
Ah, oh, le truc glauque.
Norman Bates. Avec sa maman, qui est encore vivante.
Ah, mais ouais, d'accord.
Voilà.
Est-ce que ça va être filmé en noir et blanc ou pas?
Non, ouais, tu rigoles, quoi. Attends, car Claude Cousse, quoi, quand même, quoi, c'est les couleurs qui pètent à fond.
Les filtres,
tout le ouais, truc, donc il n'y a pas de problème. Interprété par Freddie Highmore dans le rôle de Norman et de Vera Farmiga, qui, elle, est pas mauvaise du tout, quoi, il faut dire. Elle a toujours des seconds rôles, des trucs comme ça dans les séries, des fois dans des films... programmé à l'Utopia, genre les Abel Ferrara et des trucs comme ça. Mais bon, elle a jamais eu vraiment un super bon premier rôle. C'est un petit peu dommage parce que bon, c'est quand même une nana qui se démerde pas mal, quoi. Et elle interprète donc le rôle de Norma Bates, la mère. Et donc,
Norma
on
et
va
normal.
Suivre. Voilà, on va suivre
normal. Les rapports. Quand même, hein.
Les rapports, on va dire, on sait pas s'ils sont incestueux, on sait pas quel rapport ils ont au départ. Parce que bon, bah, quand on voit Psycho, bon, on se dit, bah, ok, il n'y a pas que l'attrait de la personne morte, et puis du cadavre, et puis de la vénération de la génitrice passée, quoi, morte, quoi. Enfin bon, il y a plein d'autres
choses.
Ah,
il fait pas mal de saloperies, même quand il est dans sa phase normale. Il espionne. Il espionne. Lee. Vivian Lee, je sais plus son prénom. L'actrice sous la douche.
Janet, voilà. C'est pas Vivian, c'est Janet, ouais. Mais ouais. Donc bon, c'est peut-être à voir comme ça, jeter un petit œil, quoi. Voir si ça tient ses promesses. Parce que bon, justement, Carlton Cuse, bon. Dans un sujet pareil, peut-être qu'on va un petit peu s'égarer. Quoi.
Parce que ceci dit, ouais, faire une série préquelle, ils ont intérêt à sortir vachement du motel parce que sinon ça va faire un peu monotone quand même.
Ouais. Et sinon, je peux aussi vous dire que bon, le film originel quoi, est tiré d'un bouquin de Robert Bloch et puis lisez Robert Bloch, bordel quoi. Parce qu'il a fait également des romans d'anticipation et de fantastique. Il a pas fait que du polar ou du thriller quoi. Il a fait plein de trucs et ce mec est excellent. Maintenant, les films de la semaine. Alors ce soir sur Arte,
Rodolphe, tu peux intervenir à tout moment.
Oui, bien sûr.
Ah oui, n'hésite pas.
Ce soir sur Arte, ça a déjà été diffusé, mais c'est une rediffusion. Et là, ça vaut vraiment le coup. C'est le documentaire qui s'appelle Lemmy. Tout le monde sait, tout le monde qui connaît le rock'n'roll sait qui est Lemmy, bien sûr.
Ace of Spades.
Et voilà,
c'est le gars qui a été crucifié
Xavier.
Sur la croix.
Même Xavier, quoi, le sait, quoi. Donc, ce documentaire.
Au regard, mais complètement
de
désespéré des
Gérard
deux
Oliver
autres.
Et William Orchowski, donc
bah c'est celui de Motorhead.
Motorhead,
ah bah
bien
oui,
sûr.
Bien
mais
sûr.
Oui.
Combien de Humelot 14.
2. Donc, c'est ce soir à 22h15. En plus, c'est pas
piégé sur Motorhead.
Pour la deuxième diffusion, il le passe plus tôt que la première fois, quoi. Donc, c'est tout bénef, quoi. Sinon, sur ce soir sur RTL9, il y a également Breakdown, Point de rupture. petit film
sympathique
de Jonathan Mostow, hein, qui nous avait fait un excellent film de sous-marin, quoi, je me rappelle pas lequel.
U-571.
Voilà, c'est celui-là, quoi. Avec Kurt Russell, bien sûr, J.T. Walsh et Kathleen Kinnan, entre autres, quoi. Où Kurt Russell et sa nana, il y a la gamine qui disparaît, et puis en fait, elle a été kidnappée, et puis bon, ils vont se lancer à ça. C'est un petit peu un road movie, quoi, on va dire, quoi, mais avec le côté thriller en plus. Ouais. C'est sympathique.
C'est
quoi,
sympathique, vraiment, mais sympathique. Oubliable après, quoi.
Oui, oui, tout à fait, quoi. Sur NT1 également ce soir, 20h45, Piège au soleil levant, Into the Sun, dans la version originale de Mink en 2005, avec Steven, bien sûr, Seagal, Takao Ozawa, William Atherton. William Atherton.
Oui, bah le gars, de le journaliste. TV de Piège de cristal.
De Die Hard 1 et de Die Hard 2. Et également Kenneth Lowe.
Avion.
Kenneth Lowe qui a joué dans Drunken Master 2 et dans Police Story.
Ça fait pas mal de films qui passeront pas à l'Utopia, tout ça. Hein.
c'est probable.
Ah, Drunken Master, si, je crois, je crois que oui.
Mais par contre, ce soir, il y a peut-être une série, mini-série japonaise à suivre sur Ciné Plus Club. À 20h45, qui s'appelle Shokusai. Shokusai qui veut dire pénitence
en
japonais.
Qu'on avait passé, qu'on avait eu en couverture de Gazette. D'ailleurs.
De Kiyoshi Kurosawa.
Tout à fait.
Bah, le Kiyoshi Kurosawa, ils sont tous chez vous, de toute façon. Alors,
voilà.
On adore.
Donc, là, le problème, c'est qu'on va vous passer les 5 épisodes à la suite. Donc, de 20h45 jusqu'à 2h du mat.
C'est super.
Ok. Avec Kyoko Kusami et Monatsu Kimura, entre autres. Donc, c'est ce soir sur Ciné Plus Club à partir de 20h45. Demain sur RTL9.
Sinon, ce soir, vous pouvez aller voir à Utopia Fedora de Billy Wilder, qui est quand même un film
là, bien joué, quoi. Ah, là, il y a pas de problème, quoi. Pas de problème, quoi. Bon, mais ça va en dégoûter quelques-uns parce qu'il est en noir et blanc.
Autant il est en couleur.
Ah non, c'est le couleur. Ouais. Je confonds avec un autre
avec
Wilder.
Marc Keller, magnifique.
Ouais. Non, mais. Oui, avec Marc Keller, tout à fait, quoi. demain sur RTL9, Showdown in Little Tokyo, traduit dans les griffes du dragon rouge, quoi. C'est le film de Mark Lester. Avec Dolph et surtout Brandon.
Et oui. Et ils sont très très bien dedans, ce film.
Et le combat final avec Kari Hiroyuki Tagawa, comme d'habitude, quoi.
Je me souviens d'un passage ralenti où il y a Dolph Lundgren qui saute par-dessus une bagnole en train de rouler vers lui. mais c'est ralenti, dégueulasse, tu sais, ça n'a pas été fait dans les conditions de tournage, donc ça fait tic-tic-tic-tic très saccadé. Mais bon, Dolph, c'était quand il était en forme. Alors, en
ouais,
plus,
ouais, il était en forme à cette époque-là. Puis bon, il avait quand même un partenaire qui l'obligeait à être en forme. Quoi.
Oui, voilà.
Il n'y a pas de problème. Sur Jimmy, demain soir également, un film culte, Groundhog Day, Harold Ramis, Andy McDowell, Bill Murray. Chaque fois qu'il passe, t'es obligé de le revoir, ce film.
Celui-là, on l'a passé.
Et chaque fois, quand tu le regardes, tu te dis, putain, je peux pas arrêter, il faut que je regarde jusqu'à la fin.
Il faudrait qu'on fasse un jour de la marmotte, un jour, Utopia.
Ouais, non, mais bon, il n'y a pas de problème. Sinon, sur Ciné Plus Classique,
ça serait marrant.
Sur Ciné Plus Classique,
on peut organiser des trucs qui se repattent en boucle.
Oui, on on pourrait faire une journée à thème comme ça. Ouais.
En février, d'ici février, il y a le temps.
On va y réfléchir.
Ou alors, sur Ciné Plus Classique, un excellent film tiré d'un bouquin de Steinbeck, East of Eden, d'Ila Kazan, avec Julia Rhys, James Dean. Et là, je peux vous dire que dans ce film, il est meilleur que dans le film de Nicolas Ray. Il n'y a pas de problème pour moi. Au niveau jeu d'acteur, là, dans ce film, il est terrible.
Mais bon, c'est Elia également... Kazan aussi. Hein, c'est Elia Kazan aussi.
Ouais, c'est Kazan, quoi. Mais bon, il n'y a pas que, quoi. Ouais. Et également avec Raymond Masset, excellent acteur. Dimanche, sur FX, l'aventure intérieure de Joe Dante avec Dennis Quaid, Meg Ryan, Martin Short, Kevin McCarthy. Enfin bon, rien à dire, impeccable. Et ça, c'est à 20h50 sur FX. Et à 22h45, je vous ai déjà parlé de ce film. Mais parce qu'il y avait un acteur que nous on adore ici, quoi, mais que je n'avais pas vu, et j'ai vu le film, c'est The Door de Hanno Saül, un film allemand de 2009. Hanno Saül qui fait également des séries télé, des trucs comme ça. Il y a d'ailleurs une de ses séries télé qui s'appelle Commissaire Anders qui passe sur Canal Jimmy mercredi prochain. Mais par contre, The Door, le seul acteur qui n'est pas allemand dedans, c'est Mads Mikkelsen qui joue le rôle principal. Alors, c'est un petit film qui a pas dû coûter cher du tout. Effets spéciaux, rien.
À part le salaire de Mads.
Non, moi je pense que bon, en plus, il a pas dû prendre cher à mon avis, parce que le sujet était assez intéressant, assez intriguant. pour qu'ils se disent ok, de toute façon j'ai pas besoin de voyager loin pour aller faire le film, cool. Et puis bon, il y a une unité de lieu et tout, tout se passe dans un petit village et principalement dans la maison de Mads Mikkelsen qui interprète le rôle d'un peintre, artiste assez connu, mais qui au début du film eh bien, a du mal à se remettre de la mort de sa fille. Et donc, le hasard faisant bien les choses, il va à un moment donné dans le village trouver un espèce de passage avec un espèce de tunnel, de labyrinthe comme ça. Il va ouvrir une porte et bon, quand il rentre dans le labyrinthe, en fait, ils sont en plein hiver et tout, il tombe de la neige, un truc comme ça. Il va ouvrir cette porte et tout et il va se retrouver dans le même village, sauf que on est en été et on est 5 ans auparavant. Et donc, en fait, sa fille est encore vivante. Et donc, il se dit cool, sauf que quand il rentre chez lui. Eh ben, il va tomber sur son vis-à-vis. Il va tomber sur Mads Mikkelsen 5 ans auparavant.
Merde.
Et le problème, c'est que bon, ben, y en a un qui dit « Qu'est-ce que tu fous chez moi ?» et tout. Donc, il va y avoir fight et l'un va tuer l'autre. Alors déjà, il y a le paradoxe temporel qui est un petit peu pas évident quoi, à suivre. Parce que bon, ben, si tu tues un mec qui est supposé être toi 5 ans auparavant, forcément 5 ans plus tard, tu peux pas être là. Mmh. Mais ça fait rien, ça fonctionne quand même vachement bien. Parce que, en fait, par la suite, il va se rendre compte que... Ben, peut-être qu'il n'est pas tout seul dans cette situation-là.
D'accord.
Et là, ben, ça va être assez rigolo, on va dire. Quoi. Non, pas forcément, parce que bon, ben, c'est quand même. Il y a des scènes quand même bien heavy et tout. Bon, je dis pas comment il meurt, Mads Mikkelsen.
Oh mieux,
parce que. On a vu ça.
13h30 sur Radio FMR, vous écoutez le supplément au week-end.
On a vu ça ailleurs. Je dirais simplement que le crayon à papier semble.
Oh,
beaucoup
mais
sérieux.
Non, mais oh
non, il le dit pas, mais il le dit à chaque fois. Je ne dirai pas qu'il se fait empaler par un crayon à papier
non,
à
non,
45e minute.
Non,
hop, tour de magie, je le fais disparaître.
Je vous conseille de le voir parce que vraiment, c'est 1h30, c'est pas beaucoup.
On va pas le voir puisque tu nous as raconté.
C'est assez bien foutu. C'est assez bien foutu. Non, parce que bon, bah, tout ce qui se passe à la fin et tout, quoi, c'est quand même vachement intéressant.
Je ne vous dis pas d'ailleurs ce qui se passe.
Parce qu'en fait, ça parle surtout bah, de l'histoire de la parenté, la filiation, les rapports qu'on peut avoir avec les enfants et tout ça. Quoi. Bah, c'est vraiment très très intéressant comme film. Quoi. Ça se laisse vraiment regarder. Donc c'est sur FX après l'aventure intérieure demain soir. À 22h45. Sinon lundi sur France 2. Alors là, bon ben, ils s'emmerdent pas la vie, ils en ont rien à foutre quoi.
Dimanche à Utopia.
Oui. Vas-y. Non, vas-y.
Vous pouvez aller voir Northwest, qui est un polar danois qui a eu plusieurs prix au festival du film policier de Bonn et qui est vraiment très intéressant.
Mais tu parlais de Mads, on reste dans le danois.
Ok. Sinon France 2, donc je disais, ils en ont rien à foutre quoi. Eux, les programmations quoi. Allez, on te passe ça parce qu'on a eu les droits et puis bon, ça va nous faire monter un petit peu l'audience et ça va nous faire mousser. C'est à 0h25 que vous pourrez voir Sympathy for the Devil, le documentaire de Godard sur ce fameux enregistrement du morceau, un des morceaux cultes des Rolling Stones, quoi. C'était en 69, entrecoupé de des déclamations, des slam poésie comme. Ça existait déjà à l'époque, hein, des Black Panther et tout, quoi. Enfin bon, mais c'est vraiment un film à regarder, quoi. C'est vraiment nickel, quoi. C'est un des meilleurs Godard pour moi, de toute façon, quoi. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas foutu grand-chose. Et dans le bouquin de Keith Richards, raconte cette anecdote, comme quoi Godard, lui, il a commencé à vouloir foutre des éclairages un peu partout dans le studio et tout. Quoi. Puis manque de bol, les éclairages ont foutu le feu au studio. Et bon, pour Keith Richards, Godard, c'était plus ou moins une espèce de branleur hein, qui était là et puis qui faisait chier le monde et tout, parce qu'il avait des directives assez précises et tout, alors que bon bah eux, les Stones avaient l'habitude d'enregistrer bon bah un petit peu dans un bordel ambiant et tout, avec Brian Jones qui s'en ramène et puis qui est là, ouais non je joue pas, attends je vais me coucher dans un coin, je suis trop défoncé, laisse tomber, ouais bon on le fait sans toi alors laisse tomber, enfin bon, c'est vraiment vraiment un super documentaire
cinéma.
Un super documentaire de rock'n'roll. Lundi toujours sur Ciné Plus Pamise, les aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn, Olivia de Havilland et l'immense Basil Rathbone. Le film réalisé par William Kingsley et Michael Curtis.
C'était sinon... qui jouait la meule de foin ? C'est la meule de foin magique dans laquelle il tombait.
on parle de Robin des Bois.
Laisse tomber. Sinon...
À chaque fois que Robin des Bois tombe, il y a une meule de foin. Si on regarde le film, il y a une meute de foin apprivoisée qui le suit partout.
Tu parles à un moment. À un moment, il y en a une. Alors bon, là, vous aurez
sinon,
droit...
Sinon, pour rebondir, l'Utopia. Lundi soir à Utopia Tournefeuille. il y a quand même la dernière projection de Sunset Boulevard. Boulevard
oui.
Du Crépuscule.
Ah, bah oui.
Ceux qui l'ont jamais vu, qui le connaissent pas, c'est incontournable, il faut y aller. Quoi.
Ah oui, ouais. Eh oui.
Amenez vos mottes de foin.
Il n'y a pas de mal de foin. Hein. Ah. Mais il y a une piscine.
ou sinon, vous pouvez également voir sur Ciné Plus Classique à 20h45, Weekend à Zuidcote. Tiré du bouquin de Robert Merle, Le Verneuil avec Belmondo, Catherine Spack, Georges Géret et tout, quoi. Excellent. Très 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 bon film de guerre. Ou sur FX, carrément, Fahrenheit 451 de Truffaut. Le bouquin de Bradbury est quand même mieux.
Oui,
c'est très 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 différent, mais ouais. pour la scène finale avec les gens qui sont. Enfin bon, voilà. On va pas le raconter, mais
c'est
la trouve génial.
Même fin que le livre.
Exactement.
Bon, comme on a fait de la RSC lundi, on va faire un petit peu de blues le mardi.
Ah bah oui,
avec sur RTL9 à 20h45, Exit Wounds, hors limite d'Andrei Bartkoviak, hein, c'est le mec qui a fait... Roméo Must Die, avec Steven Seagal, DMX, GLNC, Isaiah Washington. GLNC, hein, c'est Crossing Jordan, hein. C'est-à-dire preuve à l'appui en français, quoi. Ok. Et okay. Qui a également joué dans Heroes, qui a également joué dans Touch, quoi, aussi, quoi. Donc, ça peut se regarder, quoi. Sinon, sur D17, Thor et le marteau des dieux de Todor Chapkanov en 2009 avec Zachary Ty Bryan, Melissa Leahy et John Lakowski.
Un film shakespearien, le voilà. Loupé.
Ou alors le
loupé.
Ou alors sur Polar, toujours mardi prochain à 20h50. Un film qui est un peu zarbi dont je vous ai déjà parlé, quoi, qui s'appelle Shadow Boxer de Lee Daniels avec Cuba Gooding Jr., Helen Mirren et Macy Gray, entre autres. Il y a d'autres petits rôles comme ça, quoi, qui sont sympathiques et tout. L'histoire de tueurs à gages qui doivent remplir une dernière mission. Alors, c'est assez marrant de voir Helen Mirren fricoter au pieu avec Cuba Gooding Jr., quoi, parce que bon, ils ont d'abord au départ une relation filiale. Mais qui tourne très vite à la relation purement sexuelle, on va dire. Mais pas que. Mais c'est quand même assez sympathique comme film, quoi. Pas mal. Sinon, sur Action, il y a également mardi prochain, 20h50, Élection 2 de John Ito avec Wisco, Simon Yam, Nick Chung.
Vous avez remarqué qui c'est qui a dit Ah, ça n'a pas été Thomas.
Ouais, il m'a battu.
Comme tu le disais un peu plus tôt dans l'émission, mercredi sur Arte à 20h50, Princesse Mononoke de Miyazaki. Donc toujours agréable et sur France 4 à 20h40 là,
juste
ça
une chose
un point, peut-être.
Si vous vous souvenez de la fin de Princesse Mononoké quand il y a le dieu qui marche qui est semi-transparent, c'est un français, c'est le seul français qui a bossé dans les studios Miyazaki et il a tout fait en intervalle, donc c'est lui qui l'a fait intégralement, donc voilà, ça a été l'un des rares étrangers à avoir bossé chez Miyazaki et le seul européen.
Et profitez-en pour voir du Miyazaki, il arrête sa carrière.
Ouais, enfin, ouais. C'est la troisième fois qu'il le dit. Hein.
Oui, bon, là, ça sent la fin quand même.
Hein. Son dernier sort en début 2014, je sais plus la date exacte.
Et qui est d'ailleurs très controversé, d'ailleurs.
Bah, il est très pro, un peu limite nationale.
Voilà, ouais. Ouais, je voulais pas le dire, mais pendant.
Okay. Qu'est-ce que tu as contre les zéros? C'est de la bonne facture.
Hein. Non, mais c'est Miyazaki, ça doit être très beau.
Ouais.
Mais je l'ai pas encore vu. Hein.
Mercredi, toujours sur France 4 à 20h40, Le Royaume de Garhul, la légende des gardiens. C'est un film d'animation réalisé par un certain
Zack Snyder.
Zack Snyder, ouais, tout à fait, quoi. Et
Man of Steel, c'est de la merde. Non, j'ai pas vu.
C'est vrai que Snyder, on a tendance à pas voir. Hein.
Sinon, toujours mercredi.
Ça balance.
Ciné Plus Premier vous propose à 20h45, c'est normal, ils ont eu les droits longtemps après Canal. Drive, le Winning Greft avec. Ah ouais. Avec Ryan, entre autres, et Brian aussi.
Oui.
Ron. On n'en dira pas plus. Ou sur OCS géant, le gros classique de Howard Hawks, l'original, puisqu'il en a fait d'autres après qui se ressemblaient, c'est Rio Bravo, quoi. Donc en 59, John Wayne, Dean Martin et tout, quoi. Puisqu'après, il a fait Los Bravados. Et il a fait Rio, je sais pas quoi encore.
Rio Lobo, non, c'était pas lui.
Non, c'est pas Rio Lobo, mais enfin, c'est un autre truc comme ça.
Il y avait Eldorado aussi.
Un truc comme ça, quoi, ouais. Enfin,
un truc en haut.
Normal. Enfin, eux, ils avaient déjà compris à l'époque que de toute façon, tu pourrais reprendre un film 10 ans après, il n'y a pas de problème, le public qui suivait, quoi. Il n'en a rien à foutre parce qu'il n'avait pas vu le précédent, quoi. Et ça marchait très bien. Ce que font maintenant, quoi, les cinéastes actuels, quoi. Mais bon, ils le disent pas, quoi.
C'est ça la différence, quoi.
Parce que lui, il s'en cachait pas. Il y a des bonnes surprises des fois. Le trou gris des frères Cohen était très bien.
Toujours mercredi. Toujours mercredi.
On fonctionne en vase clos un peu, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, attention hein.
Ouais ouais.
Toujours mercredi sur Action.
Je peux citer deux fois les frères Cohen, ils sont deux quand même, merde.
Oui, c'est vrai. Ok, bah ok. Ouais.
Toujours mercredi sur Action, un film, on va dire, mineur de Walter Hill, mais qui est quand même sympathique, c'est Les Rues de Feu, Streets of Fire, avec Michael Paré, Rick Moranis, William Dafoe, méconnaissable, parce que bon, bah à l'époque, c'était un très très jeune acteur, hein. Il n'a pas encore tourné dans Police Fédérale Los Angeles avec Friedkin, quoi. Et,
il y avait une bonne bande son, il me semble.
La bande musicale est vraiment excellente, quoi. Vraiment excellente. Jeudi, sur Sci-Fi, il est arrivé, il est là, on va pouvoir se le mater. Sharknado d'Assi Ferrante, les requins qui tombent du ciel, comme ça.
Ils ont été pris, ils ont été aspirés par une tornade et puis ils attaquent. Et donc, gens évitent pas, pas les requins, mais la tornade elle-même.
Dans La Nuit Fantastique, on aura une bande-annonce, parce qu'on passe des bandes-annonces un peu con-con
Très bien.
Voilà, et donc il y en aura une de Snow Shark ou un truc comme ça. C'est
Shark
dans la neige.
Shark Valange. La Valange qui réveille des requins mutants qui dormaient sous la neige.
Il y aura aussi Dead Sushi, il y a des trucs comme ça. Un peu
pas mal. Je rappelle que la consommation de drogue est strictement interdite dans ce cinéma.
Non, mais c'est marrant parce que ces destinations-là sont toujours peuplées de jeunes étudiantes qui ont pas trop froid.
Ah oui, normal. Là, attention, t'as quand même Tara Reid dedans.
Bon, d'accord.
Et Yann Ziering.
Elle est en troisième cycle.
Eh oui. Sinon, Polar vous propose.
Morgan est trop jeune pour savoir qui est Yann Ziering.
Pourtant, il fait une. Il revient dans la nouvelle.
Dans la nouvelle ?
Il me semble.
Je sais pas si tu regardes la nouvelle série Beverly Hills.
Non, enfin, j'ai vu.
Ah là là.
Ah, tu ne connais pas Steve Sandberg.
C'est un manque. Mais...
C'est un manque dans ta culture ?
Ouais, non.
Beverly Hills.
Non, il a dit
92-210 ou
92-010, non ?
Ouais,
un truc comme ça, ouais.
Polar, toujours jeudi prochain, élection 1. Johnny Toe.
Il l'en fait ça s'inverse.
Ouais, ils le font souvent,
pas,
ça, oui.
C'est pas mais mal. C'est pas sur la même. C'est pas sur la
c'est
même.
C'est pas sur la même chaîne en plus.
Ouais,
ça,
c'est excellent pour ça, quoi. Mais non, mais souvent ça arrive, hein, de toute façon, quoi. Je manque pas de le remarquer, de le faire remarquer à chaque fois. Quand on passe les films 1, 2, 3, généralement ils commencent par celui qui est le plus récent, c'est-à-dire le 3. Si on passe une soirée le 2 et le 1. Tout en dernier, quoi, histoire d'être bien cohérent, quoi, au niveau de l'histoire. Quoi. On termine avec vendredi, RTL9 qui vous propose une sympathique soirée en compagnie des films de Tim Burton. Tout d'abord, Beetlejuice, pour commencer, pour se mettre en veine.
J'aime bien l'amour de Rodolphe qui correspond bien à ce que je pense de Burton aujourd'hui.
Ouais.
Et ensuite, Sleepy Hollow à 22h25, toujours du même Tim Burton. Oui. Et on remarquera que dans un des deux films, il n'y a pas Johnny Depp. Dennis Head vous propose également à 20h50 vendredi prochain Les Ailes du Chaos de David Jackson avec Lucy Lawless et John Heard.
Hey.
Alors c'est Lucy Lawless qui va sauver le monde parce qu'il y a des essaims de sauterelles qui sont génétiquement modifiés qui sont en train de bouffer. En train de bouffer tout.
Dans le genre, on a failli passer The Bay dans La Nuit Fantastique. On a hésité. Je sais pas si vous l'aviez vu celui-là. The Bay.
La B.
Ouais, de Barry Levinson.
Ah, The Bay, ouais, ok, d'accord.
Qui était assez marrant, là, c'était des parasites génétiquement modifiés, des parasites dans la mer qui est muté parce que ils étaient proches d'une usine de poulets dopés aux hormones de croissance. une version écolo, quoi, des films d'horreur, c'était pas mal.
Ah, et puis les Américains, ils ont pas Fukushima, donc c'est un peu plus difficile pour eux. Quoi. TCM toujours vendredi prochain à 20h40, Bataille sans merci de Raoul Walsh avec Rock Hudson, Donna Reed. Bon film de guerre, enfin post-guerre de sécession on va dire, mais sympathique quand même. Sorti en 53. Sinon FX vous propose et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu celui-là, Barboyeur.
Ah oui,
Pamela Anderson, Steve Railsback, Témoira Morrison.
Un massacre absolu de la BD originelle, mais tellement plus jouissif.
Tu l'as vu ça, Rodolphe ?
Non, j'ai pas osé.
Franchement, si tu aimes la belle plastique et le silicone,
oui. Surtout le générique de début. Surtout le générique de début.
Pourquoi on la voit en train de s'habiller ou quoi ?
Ben non, quand elle est là avec son truc cuir moulant et puis qu'elle est sur la moto et tout ça, quoi. Et tout le générique, c'est ça, quoi. Tu dis ouais. Et puis après, tu dis ah.
Ça, c'est sur FX. Donc, vendredi prochain à 21h. Mais ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas programmé, hein, quand même. Quoi. Et je terminerai avec un honnête film de Kung Fu sur action. Vendredi prochain à 21h, les arts martiaux de Shaolin. Mais c'est la reprise, celle avec Jet Li. Le film de Lucia Lang. D'ailleurs, il me semble que c'est lui qui avait déjà fait l'original.
Je crois.
Ouais. Et là, il refait le même avec Jet Li. C'est la version de 1986. Mais bon, c'est Jet Li. Et là, il est en forme.
Oui,
ouais, il est en forme là. Il dépote quoi. Il n'y a pas de problème. C'est plus Jet Li maintenant quoi.
Ah ben Jet Li maintenant, oui.
Voilà. Et ce sera tout pour pour les films à la télé cette semaine.
Et oui, mais ma foi, on est proche de la fin du suppléant week-end et il y en a qui ont arrivé comme ça en cours de route, qui ont écouté le podcast en diagonale, puis ils sont retrouvés happés, ils ont écouté jusqu'au bout et ma foi, aurait-il manqué quelque chose en cours de route ? Thomas, qu'est-ce qu'il y avait sur le bas-côté ?
Eh bien, nous avions Rodolphe Avillage invité de notre de ce supplément week-end spécial Arrêt, ses zombies et clés USB. Nous avions également une double édition BD du tueur en série du pilier Kiwi, une nana qui essaye de grimper du nom d'oiseau, du Billy Wilder, ouais, du fricotage au pieu mais pas que, du truc en haut, Xena contre des insectes mutants, des poulets dopés et du silicone en deux roues.
Nom de la viande de bœuf de cheval avariée, vous avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, lire nos chroniques écrites, laisser vos commentaires, poser vos questions au courrier des audilecteurs, bientôt le courrier des audilecteurs aussi disponible sur le site officiel de l'émission. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr sans accent ni tiré, 2p, et je ne sais plus combien de E, je crois qu'il y en a 5. supplementweekend.fr, oui, il y en a qui regroupent quand même.
Il y en a 4.
Et demain, vous voulez faire une journée slow walk, et ben sachez qu'il y a une zombie walk à 14h à Médiathèque José Cabani, suivi donc d'une soirée à 18h au Bikini. Spécial zombie show avec Punish Yourself, Rufus Bellefleur et Zulu FX.
En partie agenda toujours, alors on va parler de vos copains de la Cinémathèque. Extrême Cinéma, 15e édition du 5 au 9 novembre. La liste des invités est disponible sur le site, je ne l'ai pas marqué. et également le week-end du 30 novembre et du 1er décembre, le Toulouse Game Show au Parc des Expositions de Toulouse.
Ouais.
Avec plein de guest stars qui sont annoncés, Paul Cuisset, l'auteur du jeu vidéo Flashback, Eric Chahi, jeu Another World.
Ouais.
Otsuka Eiji, dessinatrice de Shoujo en masterclass, Kou Yoneda, des acteurs de Game of Thrones, les acteurs qui jouent Boba Fett et R2-D2 de Star Wars qui seront là également, et ainsi que plein de web-séries, HeroCorp, Noob, Sadur Deman, Flanders Company, Visiteurs du Futur, etc.
Pas mal du tout. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM, et on continue sur www.radio-fmr.net. Prochain épisode, je crois qu'En attendant l'aube continuera. Et je ne sais ce que les autres m'ont prévu.
Rappelons la soirée à l'Utopia Tournefeuille.
Nuit fantastique le 31 octobre dans le château de l'Utopia Tournefeuille.
Et
venez déguisés, sanglants, en zombies, mais venez.
À partir de quelle heure ?
À partir de 21h et jusqu'à l'aube blême, comme on écrit dans la gazette.
Ouais, je crois que ce serait sympa en tout cas. En attendant, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye, merci à tous. Et on tasse professionnellement le courrier, merci. Des feuilles, j'en ai. De suite du sport.